Bonjour Yovali, bonjour Yovali.
Ohé, ohé.
Bonjour Yovali, bonjour Yovali.
Ohé, ohé.
Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode du podcast de la Boucherie Ovali, le vrai premier épisode cette fois.
Ouais.
Toujours cette ambiance de folie.
Bienvenue
autour de nous.
On est en public, faut préciser.
On est en direct de la U Arena.
Du pavillon Baltar.
Et donc cette fois, voilà, c'est le premier épisode. On a fait un épisode zéro sur lequel on a eu des retours qui étaient globalement bons. On en a eu des horribles, disons-le.
Ah bon?
Mais oui, mais de nos amis de la boucherie.
Ah oui.
Mais voilà. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui ont fait un retour. Ça fait plaisir parce que ça nous permet d'être là aujourd'hui et ça vous permet de regretter de nous avoir encouragés à faire cet épisode.
Sinon, ce serait suicidé.
Exactement. Je suis Antoine, donc alias Copareos, et tel Fabien Galthié, je ne serais rien si je n'étais pas bien entouré. On va commencer par celui qui a encore du mal à savoir s'il a plus honte d'entendre sa voix dans ce podcast ou dans Feu les hachoirs d'or du Canal Rugby Club, Sébastien, alias le stagiaire. Bonjour Bastien.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va. Mais alors du coup, je suis quel membre du staff, moi? C'était Galthié.
Toi, tu es au niveau de la défense. Parce qu'à chaque fois qu'on a eu des emmerdes juridiques, c'était toi qui nous défendais. Donc voilà, tu es le Sean Edwards.
Capillairement en plus.
Et puis en plus, pour un podcast, c'est très utile comme remarque. Merci
vrai.
Bastien.
C'est vrai, bah non mais...
T'es chauve Bastien.
Oui.
Et on a celui qui a disparu de Twitter, mais ne disparaîtra jamais de nos cœurs. C'est donc tout l'inverse de Maxime Mermoz, c'est Riwan, alias Oval Masqué. Bonjour Riwan.
Bonjour.
Alors, est-ce que tu as un communiqué à nous faire par rapport à cette disparition, parce que tout le monde s'inquiète?
Alors, j'ai vu que beaucoup de gens se demandaient pourquoi je n'étais plus sur Twitter. Donc, comme dit Arblaise, je pense que j'ai des explications à donner à la commu.
À la commu.
Donc, il y a quelques semaines, j'étais très actif sur Twitter et... J'ai eu des débats houleux avec des personnes que je qualifierais de fascistes de merde. Et étant moi-même un grand démocrate, bah, j'ai eu des discussions véhémentes. J'ai eu des propos un peu violents que je regrette pas.
Non.
Et
je comprends le pas.
Comme ces gens sont des fascistes, le seul truc qu'ils savent faire en général, c'est dénoncer. Donc ils se sont tous ligués contre moi pour me dénoncer. Et mon compte a sauté, définitivement. Du coup, je n'en reviendrai pas.
Est-ce que vous avez fait appel?
Je crois que Masqué. C'est pas possible.
Vous n'avez pas fait appel?
Mais justement, je préfère être un martyr, parce que tu vois, un homme de gauche qui a été réduit au silence par les nazis, ça fait de moi le Guy Moquet du XXIe siècle.
Donc, d'ailleurs, tu nous as écrit une petite lettre.
J'espère qu'on lira mes tweets pour la prépa de la Coupe du Monde.
Eh bien, merci Riwan pour cette mise au point sur les plus belles images de ta vie.
Oui, puis bah adieu tout le monde, hein, parce que...
Ouais. C'est fini maintenant. Bah, t'as un compte maintenant, mais les gens peuvent te suivre sur ce compte quand même.
Alors, il faut trouver mon vrai nom, donc vous cherchez.
Voilà, si vous avez acheté les livres de la boucherie, c'est à la fin.
Je pense que si vous tapez Oval Masqué vrai nom, vous tombez dessus. Mais bon, nos lecteurs sont très cool.
Sur les forums de facho, avec ton adresse, ton numéro de téléphone, il y a toutes les infos. Ouais. Je les ai mises moi-même. Merci pour ce petit point, Riwan. Du coup, on va partir sur le sommaire. On va commencer donc à parler forcément de ce qui commence demain, le samedi 3 septembre. C'est la saison de Top 14. On va donc présenter et s'imaginer un peu ce qui pourrait s'y passer pendant cette saison. Après, on va partir dans l'hémisphère sud pour parler du Rugby Championship ou du Four Nations. On va ensuite terminer cet épisode par un petit point Coupe du Monde, puisqu'on est à un an de cet événement qui déroulera en France grâce à Bernard Laporte, notre Raïs à nous, qu'on salue pour ces derniers jours de liberté. Le tout sera entrecoupé, bien entendu, de divers jeux et autres chroniques de membres de la Boucherie Ovalie qui ne sont pas avec nous autour de cette table, mais chroniques qu'on va écouter avec vous, chers auditeurs et chères auditrices, puisqu'on ne les a pas écoutées avant. On ne sait absolument pas ce qui va se passer, mais on leur fait confiance. Mais avant de commencer donc tout ce beau programme, et ben ça tombe bien, on va commencer par une première chronique. La chronique qui est donc présentée par l'ancien 10 au rabais de Roubaix, c'est John Pils, alias Pierre.
Lâchez tout, vous êtes bon, ne vous posez pas de questions. C'est ça nos valeurs, c'est ça Roubaix, rien d'autre.
Le talent, le savoir-faire, la victoire, c'est en vous.
Bonjour à tous, je suis très heureux d'intervenir dans ce podcast qui parle de la saison à venir. Parce que cette année, je vais peut-être enfin me remettre à regarder du rugby. J'avais fait une pause, mais là je suis motivé parce que ça y est, le rugby est peut-être ménopausé. C'est sa première année sans nouvelles règles. Bon voilà, ça c'est fait, c'était ma première chronique, et je commence par une vanne de mauvais goût, ça ne peut que me lancer. Mais c'est vrai, cette année, il n'y a pas de nouvelles règles farfelues comme le 50-22 qui vient du 13, des nouveaux commandements en mêlée dont on comprend rien du tout, ou un truc issu du Quidditch totalement farfelu. C'est dingue, on va peut-être enfin y comprendre quelque chose à ce sport. En même temps, il fallait bien qu'ils arrêtent un jour, le livre des règles, il est épais comme le casier judiciaire de Bernard Laporte. Enfin, pas de nouvelles règles dans l'hémisphère nord. Parce qu'en Australie et en Nouvelle-Zélande, eux, ils en essaient une nouvelle. Lors d'un carton rouge, on pourra remplacer le mec exclu au bout de 20 minutes. Des génies les types, alors que la moitié de leurs joueurs sont des guerriers maoris qui se mettent des coups de machette pour se dire bonjour, Les gars, ils décident que c'est un meurtre, donc c'est pas trop grave, il faut pas non plus pénaliser les coéquipiers de l'assassin. Mais vous vous rendez compte si ça arrive chez nous? On va avoir des dingueries, on va avoir des comebacks légendaires. Pascal Papé retrouve une place de titulaire à Paris. Imaginez, Stade français, Stade toulousain, 3e minute. Chassé, double pied joint dans la tête d'Antoine Mulpeau. Paf, carton pour Pascal, oh flûte alors. Mais à la 23e, entrée de Bibi Oradou, qui a remis son casque et son bandeau avec sa tête de méchant dans les films de Jean-Pierre Jeunet. Et à la 24e, suplex retourné sur Romain Tamac. Plaf, deux tétraplégiques en première mi-temps. On verra si t'as encore du jeu demain, jeu de Toulousain, quand ta charnière elle ressemble à l'intouchable. Ou alors, au RCT, ils nous ont expliqué qu'ils en avaient un peu marre des fillettes à la Etzebeth. On embauche Francis Nganou. Le type va te faire des bretzels avec des trois carrels sous-nutris à chaque début de match, ça va faire désordre. On aura peut-être même Urios, qui va rechausser les crampons. Il va se faire entrer lui-même pour calmer les ardeurs adverses. Il va gober un œuf, un demi de mêlée, hein. Avec sa mâchoire qui ressemble à une boîte à chaussures et sa panse en mode cimetière à poulet, c'est plausible. On va voir des folies, je vous dis. Enfin bon, faut pas non plus faire vieux con et refuser la nouveauté. Finalement, une nouvelle règle qui réhabilite les bouchers, les vrais, ceux qu'on aime. Je me dis pourquoi pas, on va pas se mentir, ça nous manque. Et puis, je suis kiné. Si la moitié des rugbymen finissent légumes en mode Springbok Thermostat 1995, au moins, ça me fera du boulot.
Merci John pour cette belle chronique. John qui n'a vraiment pas le physique de sa voix, hein, pour info. Ouais.
Je trouve. Mais c'était très bien. Après, on a réalisé qu'il avait la même voix que Fabien Roussel.
Oui, et puis il a ce petit...
Je suis mal placé pour vanner les voix.
Mais non, c'était pas Fabien Roussel, puisqu'il a parlé environ 40 fois de viande pendant sa petite chronique de 2 minutes. Mais en tout cas, merci. Je n'avais pas du tout entendu cette nouvelle règle. Je ne sais pas si vous l'aviez
entendu. Non, pas du tout. Je
suis, voilà. Mais j'ai oublié.
Et est-ce que vous pensez que ce serait une bonne chose?
Quelle règle déjà?
Quand il y a un carton rouge, tu peux le remplacer par un coéquipier 20 minutes plus tard.
Bah oui. J'ai pas envie d'argumenter en fait.
Mais y a pas besoin. Okay. C'est très bien. Ok, bah faisons comme ça. Ok, bon bah pas d'avis sur cette règle. Alors on s'en bat la race. Mais c'est vrai qu'il y a pas de nouvelle règle. Encore le 50-22, je trouve que ça a été pas si mal que ça finalement. Ça me faisait un peu flipper au début. Alors autant la règle.
Est-ce qu'on sait pourquoi ils ont voulu mettre cette règle, je veux dire, parce que le 50-22, c'était pour, je sais pas, privilégier le jeu au pied. Tu vois,
pourquoi ils ont voulu mettre la règle du carton rouge?
Pourquoi, enfin, tu vois, quel est le point de départ de se dire, en fait.
Parce qu'il y a un carton rouge par match et ça fausse un peu les matchs, quoi.
Ouais, après, mecs, ils sont pas obligés de découper la tête du mec en face.
Bah, après, c'est une équipe de rugby, donc il y a forcément un débile dans le tas. Et c'est pour pas pénaliser toute l'équipe de ce qu'il a fait. Parce que généralement, les cartons rouges, c'est vraiment des actions. Après, t'as pas de lucidité.
Non, mais il y en a qui sont un petit peu accidentelles. Genre les réceptions de ballon haut ou les plaquages un peu haut. Enfin, des fois, c'est pas pour faire mal, quoi.
C'est
juste pas maîtrisé, tu vois. Donc, est-ce que ça mérite une exclusion définitive? Moi je dirais que oui quand même.
On va revenir au carton orange. Le fameux débat du carton orange. Faut-il un carton orange? Mais oui, en effet. Bon. Par contre, j'ai toujours pas compris la règle de.
Après, toi, tu supportes Clermont. Donc, Clermont, avec la Vanini, je pense que c'est la règle.
Oui, bon, moi, c'est vrai. Hein. Et bien, il est temps de passer à ce moment que personne n'attend, mais qui va quand même nous arriver dans la gueule. Je ne parle pas de la guerre mondiale, mais bien sûr de la saison 2022-2023 de Top 14. La première avec le MHR en tant que tenant du titre.
Quoi?
Oh mais qu'est-ce qu'il fait lui?
Premier coup de téléphone, deuxième de la.
Oh! Elle nous casse les couilles là!
Une nouvelle saison va donc commencer, l'occasion pour nous d'essayer d'imaginer ce qui va se passer via divers scénarii et autres pronostics que nous allons égrener au fur et à mesure que nous avançons dans cette partie qui, je l'espère, ne sera pas aussi longue et interminable que ma phrase. On va commencer tout d'abord par le premier sujet. Quelle sera l'affiche, selon vous, de la finale du Top 14 cette année et qui la remportera? On commence par Bastien.
Alors,
merci Bastien.
quelle sera l'affiche? Donc, pour essayer de répondre à cette question, je me suis basé sur les affiches des finales des années précédentes. J'ai fait un petit benchmark. Donc, en gros, je pense que déjà il y aura la date, 17 juin 2023, plutôt a priori au centre de la composition, avec le logo du Stade de France à proximité, parce qu'a priori ce sera quand même au Stade de France. Je pense qu'il y aura le logo de la LNR, probablement en haut, parce qu'en général il est quand même plutôt en haut. Mm-hmm. Parfois il est en bas aussi centré, mais là je pense qu'il sera quand même plutôt en haut.
Ouais.
Après au niveau de la colorimétrie, je pense qu'on aura une dominance de noir et de couleur or. Hein, c'est la tendance quand même de ces dernières années d'un point de vue direction artistique. Avec voilà, après c'est les couleurs de la LNR, du bouclier de Brennus, donc c'est vrai que ça a du sens. Souvent d'ailleurs le bouclier de Brennus est utilisé en fond Voilà, il y a des jeux sur les motifs, sur les dessins du bouclier de Brennus qui sont voilà, en gros plan un peu sur l'affiche. Il y a souvent des mains aussi qui sont à proximité du bouclier de Brennus, évidemment pour symboliser la convoitise dont il fait l'objet. peut-être que cette année, moi j'ai quand même une idée, on pourrait mettre des pieds, principalement parce que déjà en général lors des finales de top 14, on voit plus du jeu au pied que du jeu à la main. Et puis en plus, comme à chaque fois il sert de planche de surf au bout de 20 minutes, le bouclier de Brennus, ça aurait du sens de mettre des pieds. Sinon. Attention, il y a des petites surprises parfois. Par exemple, j'ai remonté assez loin dans les affiches de finale de top 14. En 2013, par exemple, on avait un traité un peu plus illustratif, avec un rugbyman de dos. Et cette fois-ci, en fait, le bouclier de Brennus était dans le Stade de France, dessiné dans le Stade de France. Et le bouclier de Brennus faisait le toit et le ciel, en fait. Voilà. Donc là, c'était assez original. Et puis évidemment, il y avait une symbolique quand même du bouclier de Brennus qui représentait ici le paradis, l'ascension, le sommet.
C'est le réalisateur de France 2 qui l'a fait celui-là, non?
C'est possible.
On reconnaît un peu sa patte quand même.
Et puis alors deux ans plus tard, il y avait une petite variante. Cette fois-ci, le joueur, c'était toujours le même joueur dessiné, hein, vraiment, il est en finale tous les ans. Et en fait, il portait le bouclier de Brennus sur son dos. Et là, il y avait une symbolique bon, un peu plus vulgaire, parce que quand même, quand on est aussi raffiné et cultivé qu'un fan de rugby, on a tout de suite compris la référence au mythe d'Atlas, voilà, condamné à porter la sphère céleste sur ses épaules par Zeus. Évidemment, là. C'est le poids du passé qu'il porte, hein, pas simplement le bouclier de Brennus, c'est les exploits d'antan. Évidemment, là, le rugbyman représente le titan, le héros, le dieu du stade, j'ai envie de dire.
Waouh!
Bon. Et enfin, pour terminer cette très légère, très courte réponse,
bien sûr.
Évidemment, en bas de l'affiche, on trouvera les logos principaux, des principaux partenaires, donc la GMF, la Société Générale, Land Rover, GDMAT, Orange, le Rassemblement National, France Alzheimer et l'amicale des animateurs de saut à l'élastique sans élastique. Les partenaires historiques. Attention, peut-être un petit espace aussi pour les animations. Donc, parce que tous les ans, on le sait, voilà, il y a quand même un petit moment musique au sein de la finale. Alors, on a eu Big Flo et Oli, on a eu les Black Eyed Peas, on a eu Kenji Girac. Alors, on verra ce que la LNR nous réserve cette année. Moi, je mets une petite pièce sur Vianney. Bon, sinon, pour changer, on pourrait avoir Amandine du 38 ou un concert de Bossa Nova d'Alice Moon. Ou pourquoi pas un récital de piano de Johan Tanga.
Ah oui.
Ça pourrait voilà, faire la boucle, comme on dit. Et enfin, pour la deuxième partie de la question que tu m'as posée, donc qui la remportera? Donc là, ça dépend évidemment de la mécanique qui est mise en place par la LNR. Moi, par exemple, j'avais l'idée d'un petit concours sur TikTok, un petit challenge où on pourrait imiter une démence précoce. Bon, évidemment, les anciens joueurs pro n'ont pas le droit de jouer parce que sinon, c'est un peu trop facile. Et puis voilà, après avoir les 10 plus convaincants, pourraient remporter l'affiche de la finale. Et puis voilà, ça permet de cibler les plus jeunes, un challenge TikTok quand même. Et puis en plus, ça permet aussi de faire en sorte qu'on est sûr qu'aucun castré ne participera. Voilà.
Très bien.
J'espère avoir bien répondu
alors,
à ta question.
C'est très très bien répondu. Merci à toi Bastien pour cette belle réponse. Merci aux auditeurs qui sont encore avec nous.
Ou à non, normalement on est tranquille.
Ça, c'est bon, on a fait un bon trip. Maintenant on peut se faire plaisir. Et merci. Ben, impatient de voir du coup cette affiche hein, qui va bientôt sortir. On l'espère. On va passer maintenant à Rewan.
Oui.
Ah, c'est chiant de passer après ça du coup.
Et ben justement, tu vois, quand Antoine Dupont quitte le terrain et que c'est impossible de passer après lui, c'est exactement ce qui m'arrive. Donc je vais pas répondre.
Très bien, merci. Même pas de club au hasard? Même qui n'existe pas. Hein.
Biarritz, La Rochelle.
Merci. Victoire de
Biarritz.
Ok. Et ben selon moi, du coup, je vais donc jouer le rôle de celui qui vient se ridiculiser sur le terrain après une masterclass de notre titulaire.
Je suis Alexis Balès, bravo.
Merci. Je suis Alexis Balek. Parce que pour moi, la finale, ce sera Toulon-La Rochelle avec une victoire de Toulon. Juste pour voir encore La Rochelle perdre en finale de top 14, mais cette fois sur une pénalité de West. Et même si c'est pas ça, personnellement, je m'en bats la race, je m'en balèque, comme Alexis. N'importe quelle équipe m'ira en finale, juste plus jamais Montpellier contre Cast. Par pitié, plus jamais, et surtout plus jamais Montpellier qui gagne. Même le Racing, je pense que je serais prêt à les voir gagner, mais plus Montpellier. J'en suis à ce niveau-là.
On peut comprendre.
Merci. Venant de toi, ça me fait plaisir parce que ma haine du Racing vient de toi. Hein. J'ai été ton élève, tu m'as instruit ça pendant des années.
Je pense qu'on a vu un match ensemble à Rennes qui a aussi forgé ta haine
oui,
du Racing.
Oui, la demi-finale contre Clermont, oui, tout à fait. Mais c'était une haine magnifique finalement parce que ça a été le plus beau match que j'ai vu dans un stade et en même temps, pas le plus cruel parce que Clermont, il y en avait un tous les ans à l'époque. Et maintenant, limite, je regrette cette époque où Clermont allait en finale.
C'est une période où on détestait Radoslav Jevic et qu'on l'insultait tout le temps et tout. Et on s'est dit, putain, on est trop méchant en fait. Et puis on a découvert que c'était un raciste et finalement, tout va bien.
On va passer désormais à la deuxième question qui est qui sera relégué en Pro D2 à la fin de la saison? On va commencer désormais avec Rewan. Rewan, qui selon toi sera relégué en Pro D2 à la fin de la saison et pourquoi le Racing?
Alors moi j'ai fait un petit pari justement et j'ai dit Montpellier.
Wow!
Parce que
bah, audace.
on sait que les saisons post-Brennus sont toujours difficiles, généralement. Il y a toujours un petit relâchement des joueurs qui ont encore la gueule de bois, comme notre ami Enzo Forletta. On va parler de lui chaque semaine. Chaque mois, tous les deux mois. Donc, il y a ça. Puis, tu as aussi tous les leaders qui partent. Il y a Guirado, Draogo, Payog. Je pense que le nouveau capitaine, c'est Geoffrey Doumerou. C'est lui qui va faire les discours d'avant-match avec Philippe Saint-André. Donc, je pense que clairement, la motivation sera un petit peu plus difficile à trouver. Et donc, j'imagine bien une saison fiasco totale où ils sont relégués.
En plus, surtout que les joueurs de Montpellier, ils sont pas là pour l'argent.
Bien sûr. Bah ouais. C'est là pour la culture du club. De toute façon, ils ont tous atteint un niveau que aucun autre joueur de Montpellier a atteint. Donc, oui, en effet, ils risquent d'être un peu tranquilles.
D'ailleurs, il y a un peu un croisement des débats. Parce qu'il y a eu l'affaire du barbecue à Montpellier. Je sais pas si vous vous souvenez de ça.
Ah oui.
C'est le barbecue de fin de saison avec des joueurs qui se font licencier. Et puis maintenant, il y a l'affaire Sandrine Rousseau et les barbecues. Donc, je pense que il y a peut-être une thématique à trouver là-dessus.
Tu crois que c'était viriliste, le licenciement?
Je pense que le rugby, globalement, c'est pas très woke.
On va rester dans les thématiques écologiques et climatiques, puisque selon moi, c'est Brive-la-Gaillarde qui sera relégué en Pro D2 à la fin de la saison. Parce qu'avec le réchauffement climatique, justement, les brivistes ne pourront plus gagner leur match à domicile, puisque leurs adversaires sont dépités par le temps corrézien. Cette fois, il fera bon en Corrèze pendant toute la saison. Et donc, Brive ne gagnera pas un match à domicile, et comme ça fait depuis 15 ans qu'ils n'ont pas gagné un match à l'extérieur, je pense que ce sera la saison 3 en top 14 pour Brive. Fini le yo-yo entre la 8e et la 12e place, cette fois-ci ce sera la 14e pour moi. Bastien, selon toi?
Alors moi j'avais envie de miser sur Bayonne, comme pas mal de gens je pense, principalement parce que...
Ils sont remontés déjà?
Ouais.
Oui. Okay.
Déjà un club qui aligne une charnière Machno-Lopez en 2022, il a un peu la tête du coupable idéal. Après, je me demande s'ils vont aller au bout de leur idée, est-ce qu'ils vont demander à Canal+ d'être commenté par François Triot et Emmanuel Aynardeki, qui est à revenir en 2013, autant aller jusqu'au bout du truc, quoi. Peut-être même que François Hollande, tu vois, ils vont lui demander de faire un geste. En tant que président de gauche qu'il est, il pourrait sauver leur voisin Biarro, qui n'ont même pas les moyens, ces pauvres sans dents, de payer leur licence et leur facture d'eau. Après, mon souhait à moi, ce serait quand même plutôt de voir l'USAP terminer la dernière place et de voir Bayonne terminer 13e pour avoir le traditionnel barrage Bayonne-Biarritz.
Bien sûr,
accession.
La revanche.
Sauf que cette fois-ci, on pourrait supprimer la règle des tirs au but. Et tu vois, comme ça, c'est prolongation infinie. Et peut-être qu'on peut gagner 3-4 ans où ils s'affrontent comme ça dans leur coin. Nous, pendant ce temps-là, tu vois, on invite d'autres équipes à participer au top 14.
Merci pour cette analyse.
Je note que, comme tous les ans, tout le monde oublie la section paloise. Mais... Mm.
Mais oui, mais qu'ils sont là ils déjà, vont pas descendre. Voilà, tu les oublies pour le top 6, mais tu les oublies
plus
pour descendre. Quoi.
Tu connais un joueur à la section padoise. Non, et voilà, il est plus là. Donc,
tu m'as posé la même question dans l'épisode d'avant, je t'ai répondu Clovis le bail. Donc c'est quoi le bail?
Oh putain.
Comme on dit chez les Jones.
Tu couperas.
Compris?
T'as dit les Jones.
Oui, les Jones.
On n'en coupe pas en fait.
On va passer désormais à la question qui sera le joueur de la saison. Et si vous me permettez, messieurs, je vais commencer. Puisque selon moi, ce sera Damien Penaud. Déjà que le mec, il est bon quand il sait pas trop ce qu'il fait sur un terrain de rugby. Mais alors là, en fin de contrat dans 10 mois à Clermont, s'il se met à jouer pour se faire remarquer par d'autres clubs et donc partir de l'ASM et donc gagner les trophées, il va être imprenable sur toute la saison. Il va finir avec une quarantaine d'essais, ce qui n'empêchera pas Clermont de finir à une très belle 12e place. Voilà. Mais Damien Penaud sera le joueur de la saison pour partir ensuite bas. Dans toute logique, il devrait partir à Toulouse, hein, comme ça ils ont toute l'équipe de France. Mais peut-être qu'il va partir quand même au Racing, on verra. Mais en tout cas, on va profiter de sa dernière année à Clermont.
Il a dit qu'il restait si Clermont était champion, non?
Oui, il a dit qu'il restait qu'il prenait sa décision après le tournoi, suivant si Clermont était en position pour remporter un titre dans les deux compétitions. Donc autant le gars, il prend pas beaucoup de risques. Mais par contre, si Clermont venait par miracle être premier ou deuxième au mois de mars, ça serait très mal vécu, à mon avis, je pense qu'il s'en allait peut-être qu'il jouera un peu la montre, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce qu'il a dit. Riwan, selon toi, qui sera le joueur de la saison?
Eh bien, j'ai choisi un ailier, moi aussi. J'ai choisi Teddy Thomas.
Oh!
Parce que Teddy Thomas, c'est le profil un peu du branleur du lycée qui est talentueux mais qui bosse pas. Je sais quelque chose, hein, puisque moi-même, j'ai pas du tout travaillé cette émission et pourtant, je suis plus pertinent que vous. Donc, je pense que La Rochelle, ça va être un bon cadre pour lui, puisque déjà, c'est La Rochelle, quoi. Il n'y a pas de boîte de nuit, il n'y a pas de meuf à part Filindra Tête de Tigre. Donc, ce sera un peu plus apaisé pour lui. Mais oui, non, je le vois bien marquer une quinzaine d'essais, parce que c'est quand même un bon joueur. Hein. Et donc, du coup, je le vois bien, oui, accrocher la sélection pour la Coupe du Monde 2023. Où il sera titulaire, où il ratera des matchs et tout le monde l'insultera, et l'équilibre du monde sera retrouvé.
Magnifique.
Un bon plan.
T'es
de
pour la paix dans le monde et dans le pays.
Tu sais, avec toutes les guerres qu'il y a en ce moment, il faut qu'on se focalise sur un homme, c'est Teddy Thomas. Quoi.
Oui. Enfin, merci Riwan. Bastien.
Moi aussi, j'ai pris un ailier. Oui. Bon, je ne sais pas si ce sera le joueur de la saison, mais j'avais envie de mettre en avant Ange Capuozzo.
Oui.
Le nouveau joueur du Stade Toulousain, parce qu'il a quand même
Hipster,
été très très prometteur avec Grenoble et Italie. Donc maintenant, on a un peu envie de voir ce que ça donne avec une vraie équipe de rugby. Après, il arrive dans un contexte difficile, il y a quand même beaucoup de concurrence. À l'arrière, il va y avoir Ramos, Jaminet. À l'aile, Lebel, Tauzin, Malia, Retière. Il y aura même Bonneval pendant 15 jours quand il ne sera pas blessé. Donc finalement, le poste où il a peut-être le plus de chances de s'imposer, c'est à la mêlée, parce qu'il joue aussi demi-mêlée, figurez-vous.
C'est fou.
Et comme Antoine Dupont va passer la moitié de l'année en équipe de France et l'autre moitié de l'année dans des salons à faire le VRP, j'ai noté pour lui, il y a le salon des véhicules de loisirs bientôt, Festival international du film de Saint-Jean-de-Luz, et éventuellement le salon du Made in France, où pour le coup, là, il aurait vraiment une légitimité. Donc voilà, petite carte à jouer pour Ange Capuozzo, le petit beau gosse italien.
Merci donc pour le joueur de saison, on n'a pris que des arrières, ça prouve bien qu'on est des esthètes du rugby, bien entendu. Et bien maintenant, on va passer à la question suivante. Quelle sera la plus mauvaise recrue de la saison? Et je vais commencer, moi, parce que, complémentaire comme nous sommes, mon petit Rewen, j'ai mis Teddy Thomas.
Oh.
Ah oui. Parce que Teddy Thomas, l'océan Atlantique, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Et bien absolument tout.
Je sais qu'il vient de Biarritz à la base.
Je sais, ça s'est mal passé à Biarritz à la base. Il a quand même fait une bonne partie d'une saison en équipe 2 parce qu'il se comportait n'importe comment. Parce que, ok, il n'y a pas de boîte de nuit. Mais il y a quand même la plage,
il y a pas de douche chaude.
Le farniente, cette fois il y a des douches chaudes en plus, donc ça va peut-être le motiver pour aller à l'entraînement, Marc. Mais
le farniente, t'es déjà allé à La Rochelle, toi?
Bah c'est joli, quoi.
C'est chiant.
Mais mec, quand tu viens du Jura, La Rochelle, c'est Hawaï. Hein.
Ils ont un port, ils ont une tour, hein, génial.
Ils ont les francophonies.
Mais les Rochelais m'aiment beaucoup, donc je recrée un peu le lien avec eux. De toute façon, il va faire comme tout le monde, il va aller passer ses week-ends à Bordeaux. Non,
mais c'est surtout qu'il est habitué à jouer 13 matchs de la saison dans une salle. Avec personne autour du terrain.
Tu l'as pas eu depuis longtemps. Il en joue 3 là.
Oui, non, mais d'accord. C'était notre formulation pour des matchs à domicile. Là, il va être dans un stade où il fait plutôt beau, avec du monde autour, ça va être guichet fermé tout le temps. Je pense qu'il va pas supporter la pression. Et fin de saison, il va retourner justement à Biarritz, où là, il pourra se permettre de rien foutre, puisque de toute façon, on va pas lui en demander plus, si ce n'est d'être sur le terrain au moment des coups d'envoi des matchs. Donc pour moi, Teddy Thomas sera le gros échec de recrutement de la saison.
Je suis surpris que t'aies pas pris l'occasion de chier sur Morgan Parra en bon Clermontois. Mais...
Parce que je pense que Morgan Parra, il va, je pense qu'il va faire une bonne. Franchement, quand tu vois au Stade Français, déjà le niveau est pas demandé, pas très élevé, donc je pense qu'il va faire une bonne saison.
Ben moi, ça m'a fait rire, parce que tu vois les supporters du Stade Français chient beaucoup sur Arthur Coville, qui est très lent. Ils ont vu la signature de Morgan Parra, ils ont fait ouais génial. J'avais pas vu jouer Morgan Parra depuis un moment, je pense.
Ouais, mais. Peut-être qu'il est lent, mais il met des points.
Oui,
il est précis. Mais après,
son leadership, etc.
Je pense qu'il peut apporter 2-3 victoires dans la saison avec,
oui,
avec son.
C'est la grosse calvitie, là.
C'est la grosse calvitie. Bah, peut-être, Iwan, tu vas mettre Morgan Parra. Je ne sais pas qui as-tu mis, toi.
Je ne savais pas qui sera la pire recrue, mais que je sais qu'elle sera au Racing.
Woki qui a peut-être se prendre la tête avec le staff.
Bon, je sais pas trop. Oui, c'est possible. J'ai noté Warwick Geland, un Sud-Africain. Alors, j'ai regardé les vidéos et tout. Il a l'air de jouer super bien. Bah, et c'est un ailier qui court vite et qui a l'air de faire des trucs plutôt chouettes. Donc, généralement, ce genre de truc-là, ça marche pas au Racing. Donc, voilà. S'il faut dire un nom, c'est lui.
Non, mais t'es pas obligé. L'autre, il nous a décrit une affiche pendant 35 minutes. Donc, tu sais, il y a aucun problème. Hein,
mais c'est
pas...
ça, mais c'est dur de passer après lui.
Mais oui, c'est ça. On aurait dû finir par ça.
Je pense qu'il devrait faire l'émission tout seul, en fait.
Ouais. Bah, tiens, on va le laisser parler tout seul, justement. Bastien, la plus mauvaise recrue de la saison pour toi?
Bah, écoutez, moi, j'ai choisi Emilien Gailleton. Voilà, qui a signé.
ça sent le nom sorti de nu.
Pas du tout. Il a signé à Pau en provenance d'Agen.
Waouh.
Voilà, donc c'est un jeune de 19 ans qui joue avec l'équipe de France des moins de 20. Donc je m'excuse d'avance s'il nous écoute de l'avoir choisi pour cette catégorie, mais en même temps, comme il joue à Pau, personne ne va regarder les matchs, donc à la fin de la saison, personne ne pourra me dire « Non, pas du tout, en fait, il jouait super bien ». Donc voilà, c'était une manière de me protéger, et puis si ça se trouve, dans 2 ans, il sera en équipe de France, et comme ça, les personnes qui écoutent ce podcast pourront le ressortir pour m'humilier,
oui.
Et j'aime beaucoup être humilié.
Tout à fait. par contre, arrête de me regarder quand tu parles.
Si, j'ai une question.
Tu baisses les yeux quand tu baisses les yeux quand tu parles. Vas-y.
Excuse-moi.
La question, c'est laquelle? Quel poste il joue déjà, ton monsieur là?
Il joue. Alors, justement.
Alors, vous allez pas me croire.
si, mais parce que toi, tu poses des questions, tu fais le malin, machin, tu vois, les quiz, des conneries là, pour nous mettre, tu vois. Moi, j'ai une question. Il vient en remplacement. Il y a un mec à son poste qui part, au centre. C'est le seul centre qui arrive et il y a un centre qui part de Pau. Qui est le joueur qui quitte Pau au centre?
Ah, mais c'est... T'as peut-être dit un connu. Julien
Fumat.
Non.
Ça fait 2 ans qu'il a arrêté le rugby.
Stanley, il a jamais joué à Pouce, il a joué à Pouce.
C'est un joueur qui a joué à l'équipe de France.
Qui... Ah beaucoup. Oui, Alexandre Dumoulin.
Putain, bravo.
Ah, fils de.
Qui a joué.
Pute.
Non, de Cécile, on parle. Mais si tu me lances là-dessus aussi.
Alexandre Dumoulin.
J'ai réveillé au même masqué, putain.
Alexandre Dumoulin qui a joué 10 matchs en 2 ans.
Oui. Et en plus, il était pas bon.
Bon, ça, je sais pas, j'ai pas regardé Pau. Mais...
Très bien, et ben, merci pour ce petit quiz.
Il part où d'ailleurs, Dumoulin?
Il arrête, je crois.
Ah, ben, on lui souhaite le meilleur. Peut-être de renouer avec son papa. Aller jouer au ballon avec lui dans un parc.
Avant de passer donc, sur le jeu du top 14, on a une dernière question, sortie derrière les fagots, qui est donc, quel sera le scénario de cette saison? Et je crois que Bastien, tu nous as préparé quelque chose.
Non, j'ai rien préparé du tout. Ça va être, merci, ça va être de l'impro complètement. Donc selon moi, les premières semaines, je pense qu'il va y avoir une petite excitation. Là, c'est le mois de septembre. Ça fait longtemps qu'on n'a pas trop regardé du top 14. Tu vois, c'est un peu la naïveté des débuts. Donc on va un peu y croire. En plus, il y a les nouvelles recrues, les nouveaux maillots, les nouveaux staffs. Bon, donc on a le droit à quelques semaines. Puis au fur et à mesure des week-ends, on va quand même se rendre compte qu'on se fait niquer et que c'est toujours aussi nul. Donc on va un peu se désintéresser. Et puis heureusement, assez rapidement... En octobre, on va avoir la tournée d'été, le début de la tournée d'automne, pardon.
Oui.
Pas du tout la tournée d'été.
Octobre, été, pas
donc là, c'est une période un peu vicieuse, parce que du coup, bah, en fait, tu vois du beau rugby, il y a des matchs en jeu, etc. Donc tu te reprends un peu d'amour pour ce sport, tu vibres un peu, et puis évidemment, porté par cet enthousiasme trompeur, tu recommences un peu à regarder du top 14 ensuite. Bon, évidemment, ça va pas durer longtemps. Heureusement, il y a la Coupe du Monde de foot cette année. Ça tombe quand même en plein mois de décembre, c'est ça?
Je crois qu'il y a un pro esclave, il n'y a pas de problème.
Voilà, donc bon, évidemment, on aura tous un peu honte d'en regarder, mais est-ce qu'on va vraiment faire la leçon à des pays sur les droits de l'homme et l'esclavage quand on condamne des Fidjiens à traverser le globe pour venir jouer au rugby à Brive et à Clermont? Je pense
surtout
pas.
Surtout que c'est probablement Altrad qui a construit les stades au Qatar.
Sans doute. Donc on regardera le foot sans scrupule, ça nous permettra d'encore évacuer 2 mois. Après, début 2023, assez rapidement, il y aura le tournoi, les doublons, etc. Donc bon, pareil, on aura une nouvelle bonne excuse pour pas regarder le top 14. Après, on arrive en avril, donc c'est les phases finales de Coupe d'Europe. Les clubs impliqués, tu vois, entre 2 matchs de Coupe d'Europe, ils font tourner, etc. Donc c'est pas intéressant, donc bon, on ne regardera pas. Et puis après, il va y avoir un week-end intéressant, celui de la dernière journée où les clubs jouent un peu leur place en barrage, qui
bien
va
sûr.
Accueillir qui va tomber sur qui. Donc c'est ce week-end à pas rater, si vous devez réserver un week-end, c'est celui-là. Et puis après, bon, il y aura les phases finales, les barrages, on va tous là se fédérer derrière toutes les équipes qui affrontent Castres, le MHR et le Racing. Quel que soit le gagnant, on va pas se mentir, on sera un peu déçu et puis on se dira bon bah vivement la saison prochaine, ça sera mieux. Puis la saison prochaine, bah, y a la Coupe du Monde en plein milieu, donc en fait bah non, voilà.
Et bah, bravo, merci pour cette version parlée d'Hexagone de Renault. Ça m'a vraiment, je me suis baladé sur les 12 mois de l'année là.
C'est pas le scénario de la science, c'est le scénario de nos vies en fait.
depuis 30 ans. Donc on va terminer cette première partie avec un jeu sur le top 14 et c'est l'occasion pour nous de vous annoncer que vous, chers auditeurs et chères auditrices, vous allez pouvoir gagner un cadeau absolument nul. Ce cadeau, c'est...
Ah, mais c'est ça, je croyais que c'était une enceinte au début.
Eh non, c'est pas une enceinte, c'est le parfum, la boîte du parfum Eau de Brennus.
Ah.
Heureusement pour vous, c'est pas olfactif, comme podcast, mais on va quand même en mettre une petite lichette. Hein.
On pourrait faire un petit ASMR. Psh, psh,
psh. Eau de Brennus.
Putain, ma console.
Une PS4 toute neuve.
Alors, bah, ça sent le mec de droite. Hein. Ça sent. ça sent... C'est très boisé. Si vous voulez sentir ça, sentez-moi ça, les gars. Ça, tu portes un peu Lacoste.
Ça sent un peu les pages saumon du Figaro.
Donc, voilà, pour gagner ce magnifique parfum Eau de Brennus, vous allez devoir écouter ce qui va se passer par la suite, bien entendu. On va pas vous dire, on n'est pas sur TF1, on va pas vous balancer comme ça la question. Mais rassurez-vous, il n'y aura pas de RT, il n'y aura pas de like, il n'y aura pas de tout ça. Vous pourrez garder toute votre vie privée. Alors, on va d'abord, avant tout, puisque là, cette odeur, on va quand même lire la description de ce parfum, bien entendu, qui est frais cuivré, pour information.
Alors, qui vend Eau de Brennus, le top 14?
Alors, c'est Okaya, apparemment, mais oui, c'est en partenariat avec le top 14. Et je vais vous lire la description. Le bouclier de Brennus, auquel renvoie ce parfum, c'est le Graal pour ton rugbyman. Chaque sportif espère le tenir un jour entre ses mains, le brandir comme le trophée suprême. Avec ses notes boisées et sa fraîcheur épicée, il dit ça de tous les parfums, j'ai l'impression. Eau de Brennus fait référence au cuivre de bouclier, au bois laqué sur lequel il repose. Authentique et majestueux, ce parfum transpire le rugby. Et derrière, il y a une petite question, pourquoi tu le portes? Ok, donc bah, tu le portes pour le rugby, la fraternité, l'esprit d'équipe, la cohésion, c'est tout ce que tu aimes. Tes potes et toi, vous êtes, vous aussi, une équipe soudée. Complice, solidaire, toujours prêt à rigoler. Ce parfum, c'est encore plus que du rugby, c'est le symbole de la réussite au rugby. La droite. Et la réussite, tu y crois et tu la veux. Oh mon Dieu, tu es ambitieux, tu crois en toi et tu fonces. Ah oui, donc c'est un parfum LinkedIn en plus, quoi. C'est y a tout. Voilà, donc c'est magnifique, ça pue, putain. C'est après, ce
en
magnifique.
En vrai, le Brennis, ça sent la clope, le sperme et le vomi, quoi.
Oui, bah, c'est ça. Ouais, c'est dommage de pas se rapprocher de ça, mais.
L'odeur de la transpiration, tu vois, de ton sac bah, de sport que t'as ouais, pas,
peux
pas
bien.
Aéré depuis. Tu sais que t'as laissé le dernier week-end de juin, tu te dis, oh la flemme de faire la machine, et là tu vas le réouvrir début septembre dans les vestiaires.
Donc, pour savoir comment dénier ce truc, vous restez bien attentifs, chers auditeurs et auditrices, on va en parler juste après. On va tout d'abord jouer à un jeu pour Bastien et Riwan qui sont autour de la table. Et bien entendu, vous pouvez aussi tenter d'y répondre derrière votre transistor.
Donc, parmi les retours qu'on a eus, t'as vu, il faut. Drac, tu coupes si on répond trop vite.
Oui, bien sûr.
Pour que les gens aient le temps de réfléchir.
Oui, bien entendu.
Mais on va pas se retenir de répondre. Ouais. Et comme on est très très fort, en fait, vous allez voir, il y a beaucoup d'attentes, mais en vrai, nous on répond tout de suite.
Mais là, vous allez pouvoir attendre. Ah parce bon. Que ça va être chacun votre tour, donc il n'y a pas
ah
de
bon.
Souci. Et justement, et bah, puisque je vous parlais de derrière votre transistor, on va pouvoir. Et que Bastien m'a niqué ma transition, on va pouvoir partir dans le passé, puisque je vous demandais de citer le palmarès du top 14, mais chacun votre tour, et à l'envers. C'est-à-dire qu'on va partir de 2022,
oh là là,
et chacun votre tour,
vous
allez dire.
Moi.
Un nom. Vous avez le droit de faire jusqu'à 3 erreurs à vous deux, histoire qu'on aille un peu loin.
Je suis pas sûr qu'on va aller très loin. Et moi, je me tombe 3 fois déjà, donc.
Oui, mais ça, c'est pas. C'est un... Tu vois, c'est un peu d'équipe, vous avez le droit d'aider l'autre.
Ah bon.
C'est un peu l'idée. D'ailleurs, on va essayer d'aller le plus loin possible quand même.
En plus, il y a un piège assez rapidement, non ?
Il y a un piège bah, dès 2022, pour moi.
Ouais.
Donc.
Alors, vas-y.
On va commencer par 2022, on va commencer par. Allez, par Bastien. Ordre alphabétique.
Bah,
qui a gagné le top 14 en 2022
Montpellier.
Montpellier. C'est une bonne réponse. Qui a gagné en 2021 le top 14 Riwan.
Le Stade Toulousain.
Le Stade Toulousain, c'est une bonne réponse. En 2020, c'est le Covid et le rugby
j'allais
qui
dire
a gagné.
Non attribué, c'est, je pensais niquer Bastien quand ça.
Non, je pensais, j'aurais trouvé. Donc en fait,
t'es vraiment trop fort. Il est agaçant.
Si peu.
C'est pas écrit non attribué, c'est écrit arrêté à la 19e journée, non, je crois, sur le bouclier.
Ah, c'est parce qu'ils l'ont écrit.
Je crois qu'ils l'ont écrit arrêté à la 19e journée sur le bouclier. Me semble-t-il.
Ils ont fait une faute ou pas?
Je sais pas.
Arrêtez ER, non?
Arrêtez.
Covid m'a arrêté.
Arrêtez avec un Z, c'est arrêtez, il y a une agence. En fait, c'est un avertissement.
Tu fais
quoi,
sur le clavier. Arrêtez.
Arrêtez, en mal dos.
Les générations futures, comme ça, quand t'as ton bronze dessus.
2019, Bastien, qui a remporté le top 14?
Bah, c'était déjà le Stade Toulousain, non?
C'était déjà le Stade Toulousain. 2018, Riwan, le 2 juin 2018, qui a remporté le top 14.
Ça dégoûte, mais je crois que c'est Castres.
C'est Castres, en effet, face à Montpellier, 29-13. En 2017, le 4 juin 2017, Bastien, qui a remporté le top 14.
Stade Toulousain.
C'est une mauvaise réponse, le 4 juin 2017, j'étais en slip dans la fontaine
Clermont,
de la place de la Victoire.
Enfin, Clermont, c'est vrai.
Eh oui, Clermont, 22-16 face au RC Toulon. Donc, une erreur pour Bastien. 2016, le 24 juin 2016, qui a remporté le top 14, Riwan.
Ça me fait mal, mais je crois que c'est le Racing.
C'est le Racing au Camp Nou, devant 99 124 personnes. En effet, 29-21.
Grâce à Maxime Macheneau.
Grâce à Maxime Macheneau.
Qui s'est retiré. Qui a dit, vous serez meilleur sans moi.
Oui.
Comme dans les films d'action, c'est quoi ça? Je vais vous ralentir.
Et effectivement, il ralentissait quand même beaucoup.
En 2015... Bastien, qui a remporté? Tu tombes que sur les années putes, toi.
Le Stade Français.
Eh oui, le Stade Français. 12-6 face à Clermont. Grande, grande finale. 2014, Riwan, qui a remporté le top 14?
Toulon.
Oui, face à Castres.
Oui.
18-10. C'est en 2013 qu'il a remporté.
Castres,
eh ben, c'est Castres. C'était la même affiche et Castres l'a remporté.
Et ça dégoûte.
19-14.
Ça dégoûtait déjà doublement. À l'époque.
2012 et 2011. Allez, hop.
Allez.
C'est deux fois la même équipe, Riwan.
Le Grand Toulouse de Johan Maestri.
Exactement. Face à Montpellier en 2011 et face à Toulon en 2012. 2010, Bastien.
Alors, 2010...
Oh, elle est drôle, celle-là. Mm. Ah non, remarque. Non.
Si, elle est drôle.
Si, elle est drôle aussi.
Si, elle est drôle. Et 2009 et 2010, on s'est bien marré quand même.
Oui, c'est la même finale de...
C'est la même, affiche en 2009 et en 2010, mais c'est pas le même vainqueur. Réfléchis. On se connaissait pas encore, mais tu peux savoir que j'étais bien heureux en 2010.
Ah, c'était déjà Clermont?
Oui.
Ah ouais.
Alors, j'ai été gentil, le petit.
Et avant, donc, c'est Toulon.
Non, avant, il va te le dire, Riwan, en 2009.
C'était Toulousain.
Perpignan. Le premier titre de Clermont, c'était en 2010. Donc, c'était la troisième fois que Clermont perdait de suite en 2009, en finale. L'année d'avant, en 2008, c'était contre.
Et c'est encore à moi, là, mais
oui.
C'est pas...
Il a dit 2009, il a dit Perpignan.
Ah oui, c'est vrai. Donc, en
2008, Clermont a perdu contre qui?
Stade Toulousain.
Tout à fait. Et en 2007,
Stade Français.
Le Stade Français. Ils ont fait gagner tout le monde, après ils se sont dit c'est bon, on y a droit.
Petit big up à Radiqué Samo, qu'il nous écoute.
Putain, oui, c'est vrai.
C'est vrai ?
Non.
Non, je pense qu'il nous écoute pas, mais big up à lui quand
même. On sait pas. Bah oui, bien sûr, on peut faire des big up à qui on veut.
Hein. C'est vraiment parce que je sais le podcast que ça, big up. Ça plante un poignard dans le cœur de tous les Clermontois.
Moi, je le revois, tu sais, faire son petit plongeon là, long de la ligne.
Et en plus, je suivais un peu le Stade français à l'époque, ce joueur était nul. mais il a fait ça en finale, en demi-finale. C'est,
c'était un peu le Eder pour les amateurs de foot.
En 2005 et 2006, c'est le même vainqueur. C'est à Bastien. Devinez, 2005 et 2006. 2005, victoire après prolongation contre le Stade français. 2006, victoire contre le Stade toulousain.
Alors, attends, qui a battu le Stade français en prolongation, ça me dit un truc. Biarritz.
Oui. De derrière les fagots, bien joué. 2003-2004, là aussi, c'est le même vainqueur, Riwan. Face à Toulouse, puis face à Perpignan.
C'est encore le Stade français.
C'est le Stade français, tout à fait. 2002, face à Agen, après prolongation, Bastien.
2002 face à Agen.
C'est une réponse que tu as déjà dite depuis, depuis le début de cette
liste. Arrête de lui
donner
des aides. Pardon ? C'est, c'est une équipe que tu as déjà dite pour un autre titre depuis le début.
2002, ça devait être Castres, Agen ?
Non.
C'est Biarritz.
C'est Biarritz. Ouais. Ah. Allez, vous avez droit à une troisième erreur. 2001.
Je vais vous le faire faire, je
l'avais pas. Riwan.
2001, c'est le Stade français. Non, Toulouse.
Toulouse, tout à fait. Contre face à Montferrand. Oui. C'est la dernière finale en tant que Montferrand. 34-22. En 2000. Le 15 juillet 2000.
15 juillet.
Eh oui, parce qu'il y avait l'euro. J'imagine, je sais pas.
Mais... Le passage à l'euro.
C'est sûrement pour ça. Oui, tout à fait. Ils ont mis du temps. Fallait réécrire tous les billets à la main des gens. Contre Colomiers, 28-23.
C'était qui l'année après, tu viens de dire ?
Et il a dit Toulouse en 2001.
Ah,
Riwan.
C'était pas Toulouse.
Avec Michel Marfin.
Putain.
Qu'on salue.
Salut.
Lui aussi nous écoute.
J'aimais beaucoup Michel Marfin. Stade français ?
Oui, voilà, tout simplement, de toute façon, hein, tente le coup à cette époque-là. En 99, Riwan, face à Montferrand.
Ça, je sais.
Re-Toulouse ?
Re-Toulouse, en 98, face à Perpignan.
Avec Michel Marfin.
Avec Michel Marfin. 98, c'est Stade français ?
Oui.
Life is life, tout ça ?
La.
C'est pour ça qu'il y a eu, après, Gloria Gaynor... Oui.
À la Coupe du Monde
98.
98. Oh.
D'abord, la première fois qu'ils l'ont entendu... Enfin, le mec qui l'a entendu, c'était
je crois que
dans les vestiaires du Stade français.
Attention, un nom qui va vous ramener très loin en arrière, Vincent Candela.
Candela. Et là, pour le coup, ils ont fait la finale le 16 mai, donc bien avant la Coupe du Monde en France. Je comprends pas pourquoi ils ont fait le 15 juillet en 2000.
Hermès Housebrand, qu'on salue.
Oui.
Big up au Hermès Housebrand.
Big up à lui. Et à tous ses refs, à tous ses rails.
À son crew.
À son crew. 94, 95, 96, 97, face à Montferrand, Castres, Brive et Bourgoin.
Ah bah ça c'est facile.
Alors c'est l'équipe entraînée par l'homme qui a été champion de France avec Pibrac et 5 fois de suite avec Toulouse. Non bah avec Toulouse quoi.
Oui, Toulouse. 4 fois. 93. Elle va faire plaisir celle-là à un membre de la boucherie.
Castres, pardon.
C'est une bonne réponse, Castres. 92, Riwan, face au Biarritz Olympique 19-14.
Toulon ?
Oui. 91, Bastien.
Stade Toulousain ?
Non. Ils ont perdu le Stade Toulousain. C'était contre un club qui aujourd'hui est une union et qui a changé de nom.
Bordeaux-Bègles ?
Bègles-Bordeaux.
Ah, oui.
Allez, on termine avec 90.
L'année de naissance.
On va remonter jusqu'à votre année de naissance, tiens. Allez.
Bah, 90 pour moi.
Et ben voilà, puis 87 pour Iwan. 90, c'est un club qui existe encore aujourd'hui, mais c'était son ancien nom. Vous pouvez le dire tous les deux, là, si vous l'avez. Ils ont battu Agen 22-12 après prolongation.
Le Racing Club de France.
Le Racing Club de France.
Avec
80. Oui.
Le fameux Lafond dont on parlait tout à l'heure.
Oui.
Et les Nœuds Papillons, c'est cette année-là qui rentre.
Je crois que c'est cette année-là, les Nœuds Papillons, avec Eric Blanc et compagnie. Là. Mmh. 89, victoire face à Toulon. 18-12. De toute façon, dans l'autocuillateur, à partir des années 80, quand tu sais pas, tu dis une équipe.
Ouais, c'est Toulouse encore.
Voilà, Toulouse. Ouais. 88, 9-3 entre cette équipe et le Stade Auceste Tarbais.
Tarbes en 88.
Oui, Tarbes en 88 était en finale et a perdu 9-3.
Dire que j'étais vivant sur Terre quand c'est arrivé.
C'est ça, à l'époque où il y avait des poules, genre poule A, poule B.
Il y avait des poules sur le terrain aussi, je pense.
Alors, qui a gagné ? C'est un club qui était en top 14 il n'y a pas si longtemps que ça.
Pau.
Non.
Ils sont toujours pas. Brive. Non, ils n'ont jamais gagné Brive.
Non, mais ils n'ont plus en top 14.
Attends.
On a même cru qu'ils allaient redescendre en 3ème niveau. Ils ont battu leur record de défaite sur une saison il n'y a pas longtemps.
Montauban, Mont-de-Marsan ?
Non, il y a moins longtemps que ça. Pensez Pruno, pensez Diarré, pensez Agen, oui, Pruno d'Agen, ça vous va bien. Vitamines et minéraux, voilà le fruit qu'il vous faut. Et le 22 mai 1987, Riwan avait 17 jours. Et une équipe, eh ben, tu vois, comme un symbole, a battu le Racing Club de France en finale.
je dirais Toulon.
C'était Toulon, tout à fait.
C'était pas le Toulon de Daniel Herrero, d'ailleurs.
C'était peut-être le Toulon de Daniel. Allez, celui-là, je vais vérifier. Ça vous fait plaisir. C'était le Toulon de. Oh, bah, ils mettent même pas les entraîneurs.
Vous vous rendez compte que Bernard Lemaitre avait que 73 ans.
L'équipe Showbiz, en italique, du Racing a joué la finale avec un nœud papillon rose, pour l'exclamation. C'était 87. À la mi-temps, Philippe Guillard dit. La guille a remplacé JB Lafond qui était blessé.
JB Lafond,
c'est le Jeb. Le RC Toulon l'emporte à l'issue d'un match très serré. Un Herrero, Bernard, entre parenthèses, est enfin champion de France de rugby. Oui, car Bernard Herrero était dans l'équipe du RC Toulon. Et Bernard Herrero, derrière, il a entraîné qui ? Le Football Club Saint-Claudien. Vous avez raison, oui, tout à fait, bonne réponse de moi.
Tout ramène tout à Saint-Claude, quoi.
Alors, celui de vous deux qui a fait le moins d'erreurs, c'est-à-dire Rewan, va déterminer la réponse de notre jeu. Pour les auditeurs, parce qu'on est un peu des foufous, on dit d'abord la réponse et après on vous parlera de la question. Donc bien entendu, ce sera coupé, ce
absolument
qui veut dire...
Absolument rien compris.
Rewan, je te demande juste de me dire un truc en rapport avec le rugby. N'importe quoi qui passe pas à la tête. Maintenant qu'on a la réponse, il reste donc la question, mais ça on en reparle lors du dernier jeu de cet épisode. On va
c'est
terminer.
C'est incompréhensible.
Du coup, ils ont mais plus personne qui l'a entendu ça, les auditeurs.
Non, ils l'ont pas entendu.
D'accord.
Ah non, parce que sinon, je leur demande d'envoyer la réponse. Donc.
Bah, peut-être qu'ils doivent trouver la question.
Oui, c'est vrai. On va terminer ce passage sur le top 14 avec une nouvelle chronique, celle de Damien Traille. Attention, c'est toujours pas le joueur de rugby, mais bien le membre de la boucherie.
Eh oui, Damien Traille, un tout petit peu oublié qu'en rugby, le ballon est ovale et que ses rebonds sont capricieux.
J'espère que vous avez bien écouté les brillants pronostics de mes petits camarades concernant la saison à venir, afin de les insulter dans une dizaine de mois lorsqu'elles s'avéreront erronées. Pour les premières lignes, avéreront, c'est du verbe avérer, rien à voir avec Castres. De mon côté, je vais m'attacher à l'extrasportif et vous prévenir de ce que les à côté du rugby nous réservent dans les prochains mois. Tout d'abord, dans quelques semaines, Enzo Forletta devra malheureusement entrer en cure de désintox. Panique au sein de la cellule communication du MHR qui devra annuler sa campagne axée sur l'esprit festif dont il était l'égérie. Début novembre, le middle s'offrira son premier crise au RC Toulon, probablement lié à la nouvelle blessure de Cheslin Colby. Le 24 décembre, Eric Bile fera un AVC. En effet, une journée dont 6 matchs sur 7 peuvent être qualifiés de derby, placé un Boxing Day, c'est quasiment criminel de la part de la Ligue qui devra répondre de l'état de santé de celui qui n'aura même pas eu le temps de placer son troisième jeu de mots sur Dindo Marron. Ensuite, à quelques jours du tournoi à destination, Bernard Laporte sera mis en examen dans une affaire impliquant un casino clandestin, la mafia albanaise et Claude Haché. Il dénoncera un coup monté de toutes pièces par les tabloïds anglo-saxons pour déstabiliser l'équipe de France. Le Midi Olympique en profitera pour titrer en une « Émile et Romain, portrait croisé ». Quelques temps plus tard, Christophe Furios mettra les choses au point. Avec qui, contre qui, à quel sujet, c'est encore flou. Mais il sortira plusieurs fois de sa bouche sa grosse langue, là, ça c'est sûr. On arrivera tranquillement vers le temps de la semi-officialisation des transferts. Un All Black annoncé à Montpellier, trois internationaux français à Toulouse et deux Aurillacois à Brive. Teddy Thomas sera tenté par un nouveau défi sportif au Japon avant de se raviser devant l'écroulement de son NFT, le Teddy Coin. Et enfin, lors des phases finales de Champions Cup, on se rappellera combien ce sport est chouette avant de déchanter devant celle du top 14. Une chose nous consolera cependant, le Racing ne sera pas champion.
Merci beaucoup Damien pour cette très belle chronique. Qu'on vérifiera bien entendu au fur et à mesure de la saison.
Énorme spoiler quand même.
Tout va se passer, oui, tout à fait. On va désormais partir dans un endroit étrange où l'hiver c'est l'été et où l'été c'est l'hiver. Allons donc voir s'il joue au rugby en faisant des passes vers l'avant. On va parler du Rugby Championship 2022.
Championship.
De
toute façon, quand tu joues les All Blacks, t'es jamais favori. Ils sont tout le temps favoris.
Ça,
et des fois, tu arrives à les gagner.
Le Rugby Championship. Que je vais me faire un plaisir d'appeler le Four Nations parce que j'ai appris que la compétition ne s'appelait pas comme ça car le nom était déjà déposé par un tournoi de rugby à 13 et que je n'ai absolument pas peur des représailles juridiques qui feront très certainement suite à cette utilisation abusive du terme Four Nations. Parlons donc du Four Nations 2022.
On n'a aucune raison d'avoir peur de joueurs de rugby à 13.
On va donc faire le point sur ce Four Nations 2022 après 3 journées et faisons déjà un petit point sur le classement après 3 journées que je vais vous rappeler immédiatement, alors que demain il y aura la 4e journée avec notamment un alléchant Nouvelle-Zélande Argentine et un Australie-Afrique du Sud. Et donc après 3 journées, on peut. Oh, j'ai encore du mal à en voyant.
Je suis sur notre intérêt là.
Oui, non, mais surtout que j'ai. L'Argentine est première avec 9 points devant l'Australie qui a également 9 points, la Nouvelle-Zélande à 5 points et l'Afrique du Sud à 4 points. L'Afrique du Sud qui, je vous rappelle, tout le monde disait, c'est vraiment la meilleure équipe, ils vont écraser tout le monde jusqu'à la Coupe du Monde.
Cela dit, un an avant la Coupe du Monde qu'ils ont gagné, ils ont été battus par l'Italie. Donc
oui.
C'est plutôt bon signe pour eux, je pense.
Ils savent quand avoir un pic de forme. Quel est votre regard à tous les deux sur ce début de championship, Riwan?
Je sais pas trop, parce que tu vois, moi, mon rituel, c'est que je mets le réveil à 7h du matin. J'écoute... merde, j'ai perdu son nom. Francis Delterral, ouais. Pardon. Tu couperas. donc j'écoute Francis Delterral et je suis bercé et je me rendors. Donc j'ai pas vu grand-chose. Après, de ce que j'ai vu, j'ai vu des matchs assez sympas, mais quand on voit le niveau, soit tout le monde est du même niveau, soit tout le monde est nul, en fait. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est pas très impressionnant. On se dit que l'équipe de France peut taper n'importe laquelle de ses équipes.
Mais est-ce que c'est pas plus intéressant à suivre, quand même?
Ah oui, non, c'est sûr, oui.
Du coup, parce qu'il y a quand même beaucoup de suspense. Même à la fin de ce week-end, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais il peut y avoir beaucoup de changements. Non, donc c'est plutôt cool, plutôt que d'avoir un truc où la Nouvelle-Zélande...
Pour les gens comme moi qui sont nostalgiques de l'équipe de France, la vraie, c'est celle de PSA. Tu vois, les autres, là, ils sont sur le terrain, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire, ils nous envoient des passes en touche. Enfin, il manque que Scott Spedding, quoi. C'est génial. Enfin, moi, je suis très content de voir ça.
Et toi, Bastien?
Moi, je suis un peu déstabilisé, c'est pareil. J'ai regardé que des bouts de match, hein, donc je vais pas faire genre. Mais habituellement, je regarde pas. Et quand quelqu'un m'en parle, tu vois, je sors quelques éléments de langage, tu vois, un peu genre, oh là là, les All Blacks, quelle équipe quand même. Tu vois, les Argentins, ils sont valeureux, mais bon, avec les branlés qu'ils prennent, il faudrait les remplacer par le Japon ou la Géorgie dans le tournoi. Là, je peux pas dire ça, parce qu'en fait, du coup, tout le monde est un peu au même niveau, oui. Tu vois, l'Argentine est premier, enfin, c'est un peu n'importe quoi, donc je suis assez remonté, j'avoue.
Très bien. Mais en même temps, ça permet aussi un peu de remettre en perspective finalement la victoire de la France contre la Nouvelle-Zélande. Est-ce que la Nouvelle-Zélande était déjà en train de descendre à ce moment-là, ou est-ce que la France a très bien joué?
Écoute, c'est à la fin de la foire qu'on compte. Non, sûrement un peu des deux. Hein. Après, de toute façon, les tests que ce soit de l'été ou de novembre, ils ne jouent pas à pied d'égalité, ça se dit.
Donc, voilà, sur un pied d'égalité.
Oui, voilà, on ne sait jamais vraiment si c'est une équipe qui est en méforme ou l'autre qui est en forme. Donc, on sera à la Coupe du Monde, quoi. En tout cas, c'est intéressant parce que
le rendez-vous est pris.
Tu vois, tout le monde peut battre tout le monde quasiment dans le top 10 mondial, ce qui est jamais arrivé quasiment, je pense.
C'est vrai que là, on a vraiment beaucoup de favoris. On en reparlera tout à l'heure, mais en effet, c'est assez intéressant. Et alors, petite question comme ça.
C'est intéressant, mais on regarde quand même pas les matchs.
Non, on regarde pas les matchs.
Surtout qu'apparemment, il y a des joueurs de l'USAP qui ont battu l'All Black, quoi. C'est intolérable, mais bon.
On va juste prendre un petit risque comme ça, parce que de toute façon, on a compris qu'on n'était pas des grands fadas de. Du Four Nations, mais selon vous, qui va gagner ce Four Nations d'aller? Les paris sont lancés. Moi, je pense que l'Argentine va y arriver.
Non.
Moi, j'ai envie que ce soit la belle histoire.
Attends, mais déjà, il reste combien de matchs?
Je suis un journaliste France TV, moi, je veux des belles histoires.
Il reste 3
matchs, ouais.
Sachant que l'Argentine, ils ont joué 2 fois l'Australie et 1 fois les All Blacks, il leur reste 2 fois l'Afrique du Sud à jouer.
Exactement,
donc,
c'est ça.
Bon, non, moi, je joue
une
plus
fois à domicile, une fois à l'extérieur.
L'Afrique du Sud, moi.
Ouais, je pense qu'ils vont
je pense que l'Afrique du Sud va battre l'Australie ce week-end et ils vont battre 2 fois les Argentins et puis
Afrique du Sud.
Je pense aussi.
Je pense que l'ordre des choses va, tu vois, on va avoir un petit Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande en 2.
Il y a quand même 2 défaites pour l'instant.
Et peut-être Argentine en 3.
Il y a quand même 2 défaites en 3 matchs.
Ouais, mais ils vont gagner les 3 prochains, donc.
Ok, très bien. On verra. Du coup, à la fin, il y aura un magnifique Afrique du Sud Argentine qu'on regardera peut-être ensemble tous les 3 pour.
Non. Comment on appelle ce match déjà, le Germanico? Non.
Merci pour ce petit mot de la fin. Et on va terminer par un petit jeu sur le Rugby Championship, bien sûr. Avec des questions sur cette édition 2022 donc, du Rugby Championship. J'ai pris chaque match qui ont eu lieu, les 6 matchs. Et pour chaque match, je vais vous poser une question. Et vous allez tenter d'être le plus rapide à répondre. Ok ? On va parler du premier match de la première journée, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, où l'Afrique du Sud l'a emporté 26-10. Quelle chose n'était plus arrivée à l'équipe de Nouvelle-Zélande depuis 1998, avant la fin de cette rencontre contre l'Afrique du Sud, enchaînée 3 défaites consécutives. Tout à fait, Bastien, bravo.
Merci.
1-0.
Dans ta gueule.
Deuxième match de la première journée, Argentine, Australie.
Tu penses que Jaloué est champion du monde, donc ta gueule.
Oui, c'est vrai.
Argentine, Australie, 26-41. Quel animal est repris? Je vais juste revenir vite fait là-dessus. C'est vrai que tu penses que John Alomo était champion?
Non,
dans la désémission, on a
une fois, oui, ouais.
Mon podcast.
Tu peux donner le numéro de la désémission que les gens
je vais trouver la désémission spéciale Coupe du Monde de rugby qu'on avait fait. Je vais vous donner le nom, ça s'appelle la désémission.
Non, l'autre, il fait sa pub.
Attends.
John qui fait sa pub pour ses trucs de kiné, toi.
Et ça va.
On aurait pu qu'on fasse la pub pour un bouquin maintenant.
Ça est dedans, vous pourrez entendre Bastien dire que John Alomo était champion du monde.
C'est faux, c'est une imitation de ma voix.
Elle est sortie pour la Coupe du Monde 2019. Donc je vais te retrouver. C'était la numéro 85.
C'est pas moi, c'est mon avatar sur le métaverse qui s'est exprimé à ma place.
Donc deuxième match, Argentine-Australie 26-41 pour l'Australie. Quel animal est représenté sur le trophée que remporte le vainqueur des confrontations entre l'Argentine et l'Australie? Quel animal est représenté sur le trophée que remporte le vainqueur des confrontations entre l'Argentine et l'Australie?
Tu m'apprends qu'il y a un trophée déjà.
Oui. Donc, et le trophée porte le nom d'animal.
Je cherche un animal commun à l'Australie et...
Ce n'est pas un animal commun. Ah. Ça m'étonne d'ailleurs, parce que c'est plutôt un animal d'un côté que de l'autre.
Si c'est l'Australie... Ah bah. Oui, bah alors une araignée géante, un serpent.
Non, le wallaby?
Non.
Bah le puma.
Eh oui, le puma, Bastien.
C'est nul.
C'est le Puma Trophy. Oui.
Le Puma Trophy.
Et depuis...
Tu donnes pas un point là-dessus.
Depuis le début, depuis l'existence du trophée, parce que généralement c'est sur plusieurs matchs, l'Argentine ne l'a jamais gagné. C'est-à-dire que même quand il gagnait un match, il perdait l'autre suivant, et du coup l'Australie le gagnait. Parce que si j'ai bien compris les règles, s'il y a une victoire chacun, c'est celui qui l'avait avant qui le garde. Donc l'Argentine n'a jamais réussi à avoir deux victoires de suite pour l'Australie.
C'est très rugby comme règle. Le trophée, tu sais, il pourrait donner le trophée à l'équipe qui gagne, mais non, en fait, il faut que ce soit...
Surtout pas.
C'est quoi, à ton avis, le plus sexy? C'est le trophée Puma ou le trophée Eurotunnel?
C'est Eurotunnel ou Eurostar?
Eurostar, oui, pardon.
Trophée Gédimat, le plus bel essai.
Ou le trophée et Garibaldi. Deuxième journée, premier match, Afrique du Sud-Nouvelle-Zélande. Victoire de la Nouvelle-Zélande, 35-23 en Afrique du Sud. Quel joueur sud-africain a célébré sa 50e sélection lors de cette rencontre?
Faf de Clercq?
Non.
Non, attends, je l'ai vu courir tout seul en plus.
Quoi? Tu l'as croisé dans la rue en train de...
Non, mais il est rentré seul sur le terrain, je veux dire. C'est pas du toit?
Non.
50e?
On cherche un avant.
Vermeulen? Non. Non, il a beaucoup plus que ça. Remarque.
Comment il s'appelle, le gros talonneur là? Malcolm Marx?
Non. Il l'a... C'est la 50e. à 50e sélection à Marx, c'était en première journée.
Ok, un avant.
Il a un pilier droit avec un nom de club de foot.
Ah, Frans Malherbe.
Frans Malherbe, exactement. Qui célébrait sa 50e sélection 2-1 pour Bastien.
Bah, bravo à lui.
Eh oui,
s'il nous écoute.
Fiole Sentoas. Deuxième journée, deuxième match, Argentine-Australie, 48-17 pour l'Argentine. Quels sont, et alors là, attention les gars, quels sont les 6 clubs de top 14 dont un joueur de la saison 2022-2023 apparaît dans le 15 de l'équipe d'Argentine au coup d'envoi de cette rencontre? Il me faut les 6 clubs. Vous pouvez me balancer les clubs comme ça.
Les 6 clubs?
Oui.
Bah, Racing.
Racing, tout à fait, avec...
Roanimoff.
Roanimoff. Ça fait déjà 1 pour Bastien, là. 3-1. Allez, bam, j'ai décidé que ça valait un point par club. titulaire, ou 15 titulaires. Par contre, si vous me dites un mauvais club, vous perdez un point.
Oh putain.
Allez.
L'UBB.
Mais faut...
L'UBB.
Faut forcément donner le joueur ou pas?
Non, non, non. L'UBB, c'est une mauvaise réponse.
Ouais, 3-0. Ludo Petit n'était pas titulaire.
Non. Il y en a un dont on a parlé plus tôt dans ce podcast.
Ouais. Bah, oui.
Un Argentin.
Ah, Stade Toulousain. Juan Cruz Malia.
Tout à fait. Ça fait 4-0 pour Bastien.
4-1.
Non, puisqu'il a dit mauvaise réponse.
Oui.
Ah ouais, moi je suis intransigeant. Alors, il nous reste.
Clairement.
Oui, bien sûr, avec...
Thomas Lavanini.
Tout à fait, 4-1. Il nous en reste 3, du coup.
Bah, le Stade français avec Marcos Kremer.
Tout à fait.
26 plaquages, quoi.
4-2. Waouh.
Incroyable joueur, carrière de merde.
On dirait les mecs en costume cravate sur Canal+, là. Il a fait 26 plaquages. Regardez sa carte des plaquages. Sa heat map.
Tu t'imites très bien, Guillaume Garrigue.
Tout à fait. Oui, mais
oui, bonjour. Oui.
Alors, il nous en reste 2. Il y en a un dont on a parlé. Il y en a un qui a fait une vanne sur le fait qu'il y avait un joueur de ce club qui est joué, qui est battu la Nouvelle-Zélande.
À Perpignan.
Oui, avec.
Il s'appelle demi-mêlée.
Jeronimo de la Fuente.
Jeronimo, ok.
5-2. Et un petit dernier.
Celui qui reste, c'est qui?
Un joueur qui s'appelle Francisco.
Totti.
Francisco Gomez.
Ah, Lyon.
Lyon. Ça nous fait du 5-3, tout ça dit donc, c'est très serré. Troisième journée, Australie-Afrique du Sud, 25-17 pour l'Australie. Quelle ville a accueilli cette rencontre internationale de rugby à 15, une première depuis 2004?
Pour Australie-Afrique du Sud?
Oui.
Une première depuis 2004?
Ça faisait depuis 2004 que l'Australie n'avait pas joué dans ce stade, une rencontre internationale.
Canberra?
Pas dans cette ville. Non, c'est pas Canberra.
Perth?
Non, c'est pas Perth. C'est un prénom.
Melbourne?
Non.
C'est un
Adélaïde.
C'est un prénom. Ah, Adélaïde. Oui. Bah, ça fait donc 5-4, dis donc. On va quand même pas finir sur un ex-aequo.
Bah.
Alors, et bah, pour le dernier match de Nouvelle-Zélande-Argentine, 25-18 pour l'Argentine, je vous demande, depuis cette rencontre, quels sont les deux entraîneurs à avoir battu la Nouvelle-Zélande avec deux équipes différentes et avec quelle équipe ils l'ont fait?
Putain.
Avec quelles équipes ils l'ont fait? Il y a deux entraîneurs qui ont battu la Nouvelle-Zélande avec deux nations différentes. Avec quelles équipes ils l'ont fait?
Bah, du coup, là, c'était le Sud-Africain, c'est ça? Smith?
Non.
Non, pas Smith.
Bah, Eddie Jones.
Eddie Jones, avec quelles équipes?
Angleterre-Australie.
Oui.
Et puis bah, là, c'est celui qui était...
Quesada?
Non.
Non, celui qui entraîne l'Argentine maintenant, là, qui est arrivé.
Ah, Michael Checa, oui.
Michael Checa, avec l'Argentine et...
Bah, l'Australie aussi.
Australie. Chers auditeurs, le vainqueur de ce jeu devait participer au concours pour les auditeurs. Malheureusement, il n'y en a pas. Donc, comme il y a ex-aequo, on va pas faire comme pour le trophée entre l'Argentine et l'Australie. On va laisser à Bastien... Le choix.
Parce que t'es plus beau que moi.
parce que Riwan a déjà choisi la réponse. Toi, tu vas choisir le mot que les gens devront envoyer dans leur message pour participer au concours. C'est-à-dire qu'ils vont devoir envoyer...
C'est incompréhensible, personne
ne
va participer.
Il va y avoir la question.
Ah, tu découvres les questions.
Il va y avoir la question, ok. Les gens devront envoyer la réponse,
d'accord,
selon les modalités qu'on expliquera à la fin, et un mot en plus.
Ah, donc pour vérifier qu'ils ont bien entendu
tout le truc, tout ça, puis c'est rigolo.
D'accord.
Et si les gens ont vraiment de l'humour, ils essaient d'intégrer ça dans une phrase. Donc, je te laisse choisir un mot, Bastien, qu'il faudra intégrer d'une manière ou d'une autre dans le message.
Faut que ce soit un nom commun.
Peu importe, ça peut être un nom propre, ça peut être Hitler.
Bah, je vais pas prendre Hitler parce que
okay.
wesh les amis.
Wesh,
je veux que les mails
les
de réponse commencent par wesh les amis.
Ok, c'est noté. Et ben donc voilà, on vous parlera du coup de la question à la fin, puisque d'après Bastien, c'est compliqué si on le fait pas tout dans l'ordre, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer, Bastien. Assez parlé de compétition bien organisée, on va maintenant s'intéresser à un autre événement qui ne partage qu'un point commun avec le Four Nations. Claude Haché le regardera devant la télé. Place à la partie sur la Coupe du Monde 2023. France.
La joie et le soulagement dans le camp tricolore. Claude Haché, patron de la candidature, se laisse aller, félicité par Bernard Laporte et Sébastien Chabal.
La Coupe du Monde, c'est donc dans un an. Le coup d'envoi du match d'ouverture de la Coupe du Monde 2023, ça aura lieu le 8 septembre à Saint-Denis. Il nous reste un peu plus d'un an, mais on peut déjà se poser la question suivante. Est-ce que la Fédération Française de Rugby sortira grandie de cette Coupe du Monde?
Elle sortira pas grandie, mais elle sortira plus riche.
Très bien. T'es vraiment bénéficiaire sur un truc comme ça?
Pardon?
T'es vraiment bénéficiaire sur un truc comme ça? En termes d'argent, parce qu'en termes d'image et de licencié, d'accord, mais en termes d'argent.
En 2007, ils sont bien remplis les poches, ouais.
Et toi, Bastien, selon toi?
Bah moi, du coup, ma réponse est un peu, a été datée par l'actualité.
Aïe!
J'avais mis, donc la FFR sortira-t-elle grandie? J'avais mis, si on parle en termes d'effectifs, non, puisque Claude Hatcher aura mené 80% des salariés à la démission ou au burn-out.
Oui, voilà, moi, de toute façon, vous connaissez mon avis sur... sur la porte et compagnie, je...
Oh, ça va dénoncer.
Non, mais ça... En fait, non, mais c'est horrible parce que ça...
C'est ce que tu as sur le podcast de la boucherie, on attendait qu'il y ait quelqu'un qui les défende, quoi. Mais...
c'est vrai.
Tu refuses ce rôle.
Non, j'ai décidé de ne pas... En fait, c'est horrible parce que je me dis, c'est trop cool, il va y avoir plein de matchs et ça va être cool de les regarder. En même temps, ça me saoule de devoir donner de l'argent à la Fédé pour ça.
Tu critiques Claude Haché, mais hier, à 22h30, tu nous envoies un mail en disant « Préparez-moi cette question ».
Oui.
Est-ce que c'est pas du harcèlement?
Question qui est juste après et qui vous a demandé au moins 5 bonnes minutes de réflexion, je pense. On est quand même à un an du truc et t'as l'ex-directeur général de la compétition, du coup, enfin le futur ex, le président et le vice-président de la FFR et le président du MHR qui vont devant la justice pendant tout le mois de septembre là, pour des histoires de détournement. De fonds, c'est ça? Non, de fausses factures. Je sais plus ce que c'est exactement cette histoire.
Parce que si on les liste tous, le podcast il sera trop long.
Voilà. Donc maintenant, voilà, ça me fait chier. Maintenant, en 2007, ça a été un super succès populaire. T'avais plein de gamins aussi qui se sont mis au rugby à l'époque. Et donc, avoir un peu même aussi l'ambiance dans les stades, est-ce qu'il y a vraiment de l'ambiance? Ou avec ces histoires de packs, c'est le problème, c'est que personnellement, les gens que je connais qui ont acheté des packs, ils disent, bah moi je choisis pour ce match, mais les deux autres, j'en ai un peu rien à secouer, limite, ils vont pas y aller. Ce qu'on a un peu vu quand je suis allé voir la demi-finale de Top 14, où les mecs, ils avaient pris le pack de match, mais ils allaient voir qu'un match, et du coup, t'avais le stade qui était à moitié vide. Pendant l'autre match, donc, enfin, à moitié vite, j'exagère un peu, mais il y avait beaucoup de sièges pour un truc qui était quasiment plein. Ça m'empêchera pas de donner de la thune à FFR pour acheter des billets, parce que c'était les destins que j'ai choisis, et j'ai l'impression que je vous emmerde totalement avec ce que je dis.
C'est vrai.
Non, mais tu vois, tu nous parles des places, et je pense que nous deux, on n'a même pas essayé d'en acheter. Donc
ah non, moi j'attends les places à l'unité, parce que je pourrais
acheter
un pack.
Moi je me posais la question, est-ce que si ça se trouve, il y a des gens qui nous écoutent, qui sont encore en train d'attendre, s'ils ont leur onglet ouvert sur le site de la Fédé.
Mais en plus,
courage.
Mais pour les auditeurs qui peut-être auraient oublié cette date, les places à l'unité sont en vente le 11-12 septembre, je crois, à vérifier la date exacte, mais et en fin de journée, pour une fois, c'est cool qu'il va se passer à 10h du matin. Comme ça, tu peux bien niquer, plutôt que niquer ta journée en télétravail, tu niques ta soirée.
Fin de journée, donc prévoyez que ça marche vers 2h30 du
matin.
Ouais,
2h30, voilà. Ouais.
2h30,
si vous lancez 3-4 onglets en même temps, il y a moyen que ça se passe bien. On va maintenant passer au côté sportif de cette Coupe du Monde, puisque je vais vous poser la fameuse question qui a pris énormément de temps. Quel match vous aimeriez voir dans le stade pendant cette Coupe du Monde? Bien entendu, on a le réseau nécessaire à la Boucherie Valley pour vous offrir 4 places.
Pour le match de votre
choix. Je ne parle pas aux éditeurs, je parle aux gens qui sont autour de la table. Non, mais quel match t'as envie d'aller voir? Question sponsorisée, bien entendu, par la GMF, la Société Générale, sponsor depuis le début du podcast de la Boucherie Valley.
C'est à moi que tu poses la question parce que tu me regardes, mais
oui,
tu n'as pas dit...
Oui, Bastien, pardon, Bastien.
Okay. Ben, moi,
j'ai oublié qu'il y a des micros, je suis désolé, je suis tellement à l'aise, oui. Là, je suis bien. Qu'est-ce qui se passe? Quel match, Bastien?
J'ai mis France-Italie.
Ok, t'as
parce
raison.
Que c'est le dernier match de poule. Et que bon, avec un peu de chance, tu vois, l'aide de Guy Moquet, tout ça, au match d'ouverture, on va se faire taper par les Blacks. Et du coup, il peut y avoir un petit enjeu quand même de est-ce que la France peut se faire caca dessus dans sa Coupe du Monde alors qu'elle est favorite et perdre contre l'Italie. Et je trouve que rien que pour voir la gueule de la porte, si ça arrive, je préfère être au stade, tu vois, pour être vraiment prêt. C'est également vrai. Pouvoir coller mon téléphone à son visage au moment où je le filme, tu vois. Bon, après, il sera peut-être en prison.
C'est une très... Non, il sera pas en prison.
T'imagines si Ange Capuzzo, le franco-italien du Stade Toulousain, met l'essai de la victoire de l'Italie.
Alors qu'il joue neuf, comme à Toulouse.
Après avoir effacé Antoine Dupont, après l'avoir mystifié.
Riwan, quel match as-tu choisi?
Moi, j'ai choisi Tonga-Roumanie.
Très bien.
Gros choix des hipsters, hein, évidemment. On n'est pas là pour voir Afrique du Sud-Nouvelle-Zélande. Tu vois. Donc, moi, c'est mon genre de match. C'est le match de la tristesse. Quoi. Enfin, tu vois, les Tonga au rythme des catastrophes naturelles, il y aura probablement plus d'îles Tonga en 2023. Hein. Il y aura eu un séisme et ils ont été aspirés. Ouais, la Roumanie, ils existeront encore, mais c'est peut-être ça le plus triste. Tu vois. Donc, en plus, c'est à Lille. Donc, ouais, Lille. Donc moi je pense que c'est le match où peut-être je vais enfin réussir mon suicide, donc c'est celui que je retiens.
On croise les doigts.
Merci, en tout cas on te le souhaite.
On croise le souhaite aussi.
Personnellement, alors moi au tirage au sort, quand il y a eu le tirage au sort, je me suis dit c'est Japon-Argentine à Nantes que je vais absolument voir, parce que c'est cool de voir ces deux équipes jouer l'une en face de l'autre. Et en fait maintenant il y a tellement d'écart entre ces deux équipes que j'en ai choisi totalement un autre, parce qu'à mon avis l'Argentine va en mettre 40 au Japon. Du coup je me suis dit allez, je vais aller voir, mais de toute façon l'idée c'est d'aller voir des équipes que je vais jamais, qu'on peut pas voir jouer en France parce qu'ils jouent jamais contre la France dans les tests d'automne ou dans le 6 Nations. Donc j'ai décidé que ce serait Samoa-Chili à Bordeaux. Voilà,
petit Samoa-Chili.
Samoa-Chili, le Pacifico. et du coup, dernière question de cette partie Coupe du Monde que je vous pose. À un an de la Coupe du Monde, à un an du match d'ouverture, qui est votre favori? Et on commence avec Riwan.
Bah, comme je te disais tout à l'heure, je pense que c'est très indécis parce que quasiment toutes les équipes du top 10 peuvent gagner un match, peuvent faire un exploit. Donc... je pense pas genre que l'Écosse et le Japon iront en finale, mais c'est possible qu'ils éliminent un gros, tu vois, en poule ou en quart.
Surtout l'Écosse.
Oui.
L'Écosse, c'est quand même...
On peut toujours compter sur l'Écosse.
L'Écosse peut toujours te sortir un match.
Te décevoir, oui, mais ouais. Bah, donc, moi, j'ai un peu peur, parce que généralement, avant les Coupes du Monde, c'est pas forcément l'équipe favorite et la plus en vue qui performe pendant la compétition. Donc, l'équipe qui performe le moins, c'est clairement l'Angleterre. Ça fait 3 ans qu'ils font rien. Et tu vois, Eddie Jones, il a quand même un look et une personnalité de méchant de James Bond. Donc j'ai peur que ce soit un plan machiavélique qu'il ait élaboré depuis toutes ces années, qu'il fasse semblant d'être nul et qu'il batte la France en demi-finale et qu'il gagne la Coupe du Monde. Et donc voilà, donc moi je dirais l'Angleterre, juste pour faire peur aux auditeurs.
Bastien dit putain parce que c'est ce qu'il a mis aussi.
Il a mis l'Angleterre.
Ah là là, c'est pas possible, mais vous êtes...
Bah non mais bon, j'ai mis ils sont nuls, on est trop fort. Compte tenu de l'actualité en ce moment où tout vire à la catastrophe, ça ne peut que mal se terminer, donc moi j'imaginais bien un séisme qui secoue le Stade de France au moment de l'échauffement avec tu vois, la terre qui s'ouvre sous les pieds d'Antoine Dupont. Il tombe dans le trou et du coup, titularisation de notre ami Maxime Lucu.
Alexis Balek qui revient
Balek.
Dans les tribunes, qui avait pris son billet, qui était là pour regarder le match.
Qui avait gagné ses billets grâce au podcast de La Boucherie.
Tout à fait.
Donc scénario catastrophe pour moi aussi, ce qui prouve quand même que La Boucherie c'est vraiment de l'optimisme avant tout.
Moi j'ai envie de rêver, moi. Moi j'ai mis l'équipe. J'ai toujours rêvé de voir remporter la Coupe du Monde, mais qui se chie dessus à chaque fois à l'Irlande. Ah, eh oui, mais l'Irlande, parce que ils sont, chaque fois, tu dis, ils sont vraiment trop forts et il y a une sorte de plafond de verre qui se met tout seul d'ailleurs en Coupe du Monde. Mais
un plafond de verre,
bien sûr, un plafond de la verre terrain. C'est dommage et j'ai envie d'y croire aussi parce qu'en plus, je crois qu'ils ont, une poule assez abordable, si je dis pas de bêtises, ouais, qui est Afrique du Sud. Bon, mais ils ont l'Écosse, les Tonga et la Roumanie, donc je pense que ça va quand même finir deuxième.
Justement, tu vois, si une équipe que l'Écosse va sortir, c'est l'Irlande, c'est sûr.
En tout cas, j'espère que l'Irlande l'emporte. Maintenant, j'avais pas regardé, en effet, le groupe d'Irlande et le calendrier.
Ce qui était quand même, par rapport à la question, peut-être un truc à faire.
Quitte
à
enfoncer une porte ouverte, si tu veux être champion du monde, faut être capable de battre toutes les équipes.
Oh là là.
Voilà, moi je le dis, ça, je le dis. Le tirage au sort. On s'en fout. On va terminer donc ce podcast avec un dernier jeu sur la Coupe du Monde et
si possible, j'aurais dit un mot de la Pro D2 qui a repris.
Oui.
Bah, ça y est.
Merci pour cette analyse avec une très belle victoire de Mont-de-Marsan certainement qui veut dans le tas. Donc on va terminer avec un petit jeu sur la Coupe du Monde et c'est celui qui vous intéresse sans doute le plus, chers auditrices et auditeurs, puisque c'est celui auquel il faudra participer. Ce jeu il consiste à retrouver une réponse en rapport de près ou de loin avec la Coupe du Monde de rugby. Bastien et Riwan, c'est vous qui allez jouer en premier et après les auditeurs vont jouer. Donc, en rapport de près ou de loin avec la Coupe du Monde de rugby, il faut trouver la réponse. À partir de phrases que j'ai tirées au hasard de sa fiche Wikipédia. Je vais vous balancer des phrases à la fiche Wikipédia, vous devez retrouver. Il y a 4 indices à chaque fois, de plus en plus facile forcément. Donc vous allez jouer Bastien Riwan dans un premier temps et on terminera avec une dernière réponse à trouver. Cette réponse, c'est celle qu'a dit tout à l'heure Riwan, mais que vous n'avez pas entendu, puisqu'on l'a coupé au montage. On commence avec la première question. Donc ça peut être vraiment n'importe quoi, hein. Mais c'est une fiche Wikipédia, il faut le titre de la fiche Wikipédia et c'est un rapport avec la Coupe du Monde de près ou de loin.
Titre de la fiche, exact.
Oui. Ce match se distingue par les 5 drops réussis par le Sud-Africain Jamie de.
Angleterre, Afrique du Sud, quart de finale 1999.
Non, c'est pas le titre de la page Wikipédia. Ce match se distingue par les 5 drops réussis par le Sud-Africain Jamie de Beer, qui marque lors de ce match 34 des 44 points de son équipe.
Demi-finale, Coupe du Monde.
Non.
90... Non, bah non.
Deuxième indice.
La Coupe du Monde 99.
Eh oui, c'est tout simplement la Coupe du Monde de rugby à 15. 1999.
C'était le quart du coup, c'était au Stade de France.
Le deuxième, c'était une victoire rapporte 3 points, un nul 2 points et une défaite 1 point. Un forfait étant sanctionné par 0 point. Roumanie 27-25, États-Unis à Lansdowne Road, c'était le troisième indice. Et la France crée la surprise en battant la Nouvelle-Zélande sur le score de 43-31 en demi-finale, c'était la Coupe du Monde 1999. Numéro 2, il est ceinture marron de judo.
Riwan, Teddy Riner.
Non.
Thierry du Sautoir.
Non. Né le 28 juillet 1978 à Castres.
Jean Jaurès.
En 2004, aux côtés de Damien Traille et toujours avec Michel Hacquet l'ouverture, il remporte son premier grand chelem.
Poitrenon ?
Non.
Ceinture marron de judo ?
Oui, c'est ça qui te fait.
Je suis bloqué.
Et enfin, alors qu'il était présenté comme l'un des meilleurs centres du monde avant la compétition, il déçoit lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde 2007 contre l'Argentine, perdu par la France. Il se retrouve à remplaçant pour le match suivant contre la Namibie, et David Marty se retrouve alors titulaire.
Alors...
Josion ?
C'est Yannick Josion, tout à fait. Numéro 3. Il était également joueur sous les couleurs de Nice.
De
Nice. Rien à voir avec la ville sur la côte d'Azur.
Ah bon ?
C'est N-E-A-T-H.
Gavin Hanson.
Non. Il a été soupçonné d'avoir servi la cause sud-africaine.
Servi la cause sud-africaine ?
Hitler.
Il a été soupçonné d'avoir servi la cause sud-africaine.
C'est quoi la cause sud-africaine ?
C'est un truc raciste,
ah oui.
Non, je pense.
Ah mais c'est sorti de son contexte, bah, forcément. Oui, pour ça. Il arbitre son premier match international le 22 avril 1984, opposant l'équipe d'Italie à celle de la Roumanie. Oui,
c'est l'arbitre de France-Afrique du Sud 95.
C'est quoi son nom déjà ?
Beaucoup de gens, à mon avis, beaucoup d'auditeurs l'ont déjà.
Oui,
là.
Oui.
Ils sont en train de vous insulter.
Moi aussi, je fais un bouquin, on parle de lui. La montre en or, là.
Oui. Et oui, c'est le dernier truc. Derek Bevan. Il reçoit un cadeau de la part des Sud-Africains, montre en or. Quatrième réponse à chercher. Le premier match recensé a eu lieu en 1864 entre des artilleurs. Le premier match recensé...
Rugby.
Non. Bien tenté, mais non.
Pour l'affiche.
Le nom de l'affiche, ouais.
Donc, Écosse-Angleterre.
Non. J'ai pas dit qu'il fallait une affiche. Hein. Au 7 septembre 2015, elle occupe la 18e place au classement World Rugby.
L'Angleterre.
Non.
15 de la Rose.
Non.
15 d'Angleterre.
Non, mais la 18e place...
Ah oui,
c'est pareil, l'affiche. Au 7 septembre 2015, elle occupe la 18e place au classement World Rugby. En 2021, ils échouent pour la première fois dans leur quête d'une qualification à la Coupe du Monde de Rugby à 15 2023. En 2021, ils échouent pour la première fois dans leur quête d'une qualification à la Coupe du Monde de Rugby à 15 2023.
États-Unis ?
Non. Et dernier indice.
Canada ?
Oui, j'avais dit un dernier indice. Jamie Kedmore. Tout à fait, c'est l'équipe du Canada.
C'est quoi le truc des artilleurs ?
Ben, le premier match de l'équipe du Canada, c'était entre des artilleurs. Après, moi, j'ai pas cherché à comprendre les phrases, hein, je les ai prises. Allez, une dernière, et après, on passe au jeu des auditeurs. Son père, Arturo, connaît 4 sélections de 1973 à 1978.
Arturo Brachetti.
C'est son fils, du coup.
Il changeait à la mi-temps.
Gianluigi Brachetti. Son père, Arturo, connaît 4 sélections de 1973 à 1978. Il a inscrit à son palmarès 2 titres de champion de France et 2 titres de champion d'Italie.
C'est lié à la Coupe du Monde. Forcément.
Oui, de près ou de loin.
Diego Dominguez ?
Non. Nick Mallet le positionne au poste de
Mauro Bergamasco.
Eh oui. Quand j'ai entendu le positionne au poste...
Oui, oui. Bah, de toute façon, déjà, je pensais à lui, parce que les Italiens champions de France, il n'a pas dit mieux.
Au poste de demi-mêlée lors du tournoi Destination 2009, il reconnaît que l'essai n'est pas concluant.
c'est le texto, ce qu'il a dit.
C'est ce qu'il écrit sur la page Wikipédia. Il participe à 5 Coupes du Monde de rugby... Un record qu'il partage avec un autre joueur dont j'ai oublié le nom.
Brian Lima,
non ?
Tout à fait, merci. Des Samoa, c'est ça ? Et il participe à 5 Coupes du Monde, ne parvenant pas à se qualifier pour la phase finale éliminatoire directe de aucune de ces Coupes du Monde. Il a réussi à se qualifier en quart de finale. Et petit rappel enfin, Nick Mallet, ancien entraîneur de Saint-Claude également.
Et qui prenait des valises.
On va passer au jeu des auditeurs. Alors attention, le mot qui a été dit par Riwan n'est lui pas en rapport avec la Coupe du Monde de rugby. Donc c'est juste un rapport avec le rugby en général. On va vous prendre 3 phrases de la page Wikipédia au hasard de ce qu'il faut chercher. Quand vous avez trouvé, vous Vous allez sur votre boîte mail. Vous commencez le message, Bastien, par... C'était quoi ta phrase ?
Ah bon, on leur dit parce que...
Je me rappelle. Oui, par ce qu'a dit Bastien tout à l'heure.
Voilà.
Vous mettez ensuite ce que vous voulez comme mot. L'important, c'est qu'il y ait la réponse qu'on cherche dedans. Et le vendredi 8 septembre, voilà, un an de la Coupe du Monde, on tirera au sort une réponse et on enverra, bien entendu, le magnifique parfum Eau de Brennus. Envoi garanti avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde. Voilà. Et avec cette odeur, vous allez en faire tomber les supporters et les supportrices étrangers aux abords du stade. Tomber littéralement. On commence donc avec le premier indice. Tiré de la page Wikipédia, la réponse qu'il faut trouver. Gilbert Brunat, entraîneur du US Montpellier en Fédéral 1, le recrute une fois son baccalauréat obtenu. Gilbert Brunat, entraîneur du US Montpellier en Fédéral 1, le recrute une fois son baccalauréat obtenu. Suivi par un agent travaillant pour le compte de plusieurs clubs, il signe un contrat avec l'US Dax. Et enfin, il honore sa première cape internationale en équipe de France le 28 juin 2008 contre l'Australie, alors que les internationaux du Stade Toulousain, de l'ASM Clermont-Auvergne, de l'USAP et du Stade Français disputaient les demi-finales du Top 14 2007-2008 dans leurs clubs respectifs. Voilà, donc rappel, pour participer, vous envoyez le message avec le truc qu'a demandé de mettre Bastien dedans, la réponse, et à l'adresse boucherie-ovalie-podcast@outlook.fr. Je crois que j'avais pas dit l'adresse mail avant.
Oui.
Donc les gens étaient vraiment... Donc, boucherie-6.
Si on a
Ovalie,
une participation, c'est miraculeux.
-6podcast@outlook.fr. Et avant de conclure cet épisode, il est temps de remplir notre caution rugby. Car oui, on ne pouvait pas faire un podcast sur le rugby sans avoir d'accent chanta. Place donc à l'affreux qui, comme vous allez l'entendre, est originaire de Nancy.
Imanol, le Pays Basque lève les mains. Le rugby se vit dans nos cœurs.
Toi qui n'as jamais joué, comment peux-tu comprendre qu'on ait le cœur serré lorsque revient septembre? Allez, Chatsmund, éloignons-nous un instant des salons parisiens de ce petit entre-soi germano-pratin où l'on dégoise rugby entre deux considérations érudites sur l'implantation future d'un concept store de nœuds papillons en bois, la meilleure façon de tuer un rat en lui roulant dessus à vélo. Spoiler, faut bien viser la tête, mais en évitant que les dents ne percent à la chambre air, sinon ça fait match nul. Non, la caricature ne tue pas. Sinon, comment expliquer que le Biarritz Olympique soit toujours vivant? Je vous laisse réfléchir. À Venceslas Loré d'une nouvelle saison, orientons la sagacité pertinente du regard acéré de la boucherie Ovalie sur le devenir d'un club de rugby amateur lambda dont nous conserverons ici l'anonymat. Moins pour des raisons évidentes de couardise prononcée que par le fait qu'il ne soit que l'incarnation d'une tendance plus générale. Or donc, ce club végétait auparavant entre les séries régionales et la Fédérale 3, alternant montées et descentes au gré des vents contraires. Les plus anciens se souviennent de l'époque bénie où il atteignit naguère le groupe B, lorsque les deux divisions de l'élite du rugby national comptaient environ 468 clubs. Mais, par la grâce d'un destin facétieux et l'ennui de l'entrepreneur local qui se rêvait un avenir politique, ce mécène, désormais président, se mit en tête de redorer le blason du club. Et quand on veut redorer quelque chose, on le couvre d'or. Plus précisément d'argent, dans le cas qui nous concerne ici. Comme le tour de taille d'un Fidjien après l'intersaison, le budget du club se voit considérablement augmenté. On fait venir un entraîneur, légende régionale, meneur d'hommes aguerri, dont quelques discours de vestiaire opportunément filmés ont fait entrer quelques punchlines dans tous les esprits. C'est le projet du président qui l'aura convaincu. Ainsi que la rémunération d'un vague poste de manager, objecteront quelques esprits chagrins. Et le coach se sent tellement investi dans cette nouvelle aventure qu'il se place en disponibilité de son activité professionnelle pour être à 100% dans le projet. Admirable dévotion. Pour ce projet, il faut des hommes. On l'a donc recruté. Beaucoup. Et par tous les canons. Le coach est arrivé avec sa phalange de grognards qu'il trimballe dans les équipes entraînées. 5 sur les 7 dernières années quand même. On a débauché du centre de formation du grand club d'à côté 2-3 profils intéressants et la magie des sites de rencontres rugbystiques a fait le reste. Le middle, rugby amateur et quelques forums spécialisés ont vu fleurir des annonces de recrutement. Club de Fédéral 3 Coquin cherche joueur tout poste de niveau supérieur pour projet ambitieux et torride, monté pro D2 sous 5 ans. Divers emplois disponibles dans plusieurs domaines. Rémunération en fonction des talents déployés. Et comme chez les escortes, on demande des CV, des photos, voire des vidéos en action. L'annonce est publiée en français, anglais, espagnol, géorgien et même dans les langues polynésiennes, car le racisme n'a pas sa place dans le rugby d'aujourd'hui. Comme il faut pré... Pardon ? Ah, ça commence à trop durer. Bon, eh bien la suite au prochain épisode. Allez, à au Cop Québec.
Et ben voilà, bah on s'attendait à rien, on est quand même content.
Non mais pour moi c'est de l'ASMR, je vais l'écouter c'est vrai que oui. Avant de dormir.
C'est vrai.
Peut-être aussi sous la douche.
Merci en tout cas à Lafrenière Front pour cette très belle chronique qui vient mettre un... Déjà qui vient un peu teaser le prochain épisode, mais qui vient aussi mettre un terme à celui que vous êtes en train d'écouter. Donc Lafreux nous a parlé de ce prochain épisode où il y aura la suite de sa chronique. Prochain épisode qui sera début novembre, où on parlera des tests d'automne et notamment de la Coupe d'Europe. D'ici là, Rewind est toujours sur Actu Rugby.
A priori, mais... encore viré, oui.
Très bien. Ça reprend quand
lundi,
les bisous.
Lundi.
Et vous avez peut-être, vous avez également un petit message à dire sur une actualité que vous avez tous les deux, me semble-t-il. Je fais le mec qui sait pas, vous avez vu. Hein.
Même toi aussi. Ouais,
non, moi, donc il y a un livre qui va sortir avec l'arrière-cuisine.
C'est ça. L'arrière-cuisine, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu le cousin attardé de la boucherie Valley, puisqu'on y retrouve une bonne partie de l'équipe.
C'est pas l'inverse.
Oui, aussi, c'est vrai qu'il y a plus de gens intelligents à l'arrière-cuisine quand même. C'est un site, pour ceux qui l'ignorent, où on parle de tout sauf de rugby, mais un peu avec le même ton que la boucherie. Et après un livre sur le cinéma sorti en 2018.
Ciné Club Sandwich,
qui est en rupture de stock, ne cherchez pas à l'acheter. voilà, un nouvel ouvrage à paraître début octobre, si tout se passe bien, mi-octobre même peut-être. Et on en dira plus sur les réseaux sociaux de l'arrière-cuisine dans les prochains jours. Donc, suivez.
Restez connecté la team.
Voilà, exactement. Follow, donnez-nous des pouces bleus. Et puis,
un petit code pour avoir moins 10% sur le livre ?
Non.
Vous allez payer plein pot. NON10.
Vous allez payer plein pot.
Et ben merci. Pour ce petit, on est impatient de savoir la suite. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ce livre, puisque vous m'avez demandé d'envoyer des trucs, mais je ne sais pas s'ils ont été gardés ou pas.
Non, ils ont pas été.
J'ai lu le livre, tout est bien, même ce que tu as écrit.
Ah oui.
Donc, c'est vraiment qu'on s'est
beaucoup
dépassé,
de travail derrière, oui. Ouais. Eh bien, donc on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de La Boucherie, si on a pas eu la flemme d'ici là, début novembre. On espère que ça vous a plu, on espère que vous êtes bien marrés. Et puis on espère surtout pas que vous allez recevoir ce parfum, parce que franchement, ça fait une heure qu'il y a l'odeur, c'est horrible. Puis voilà, n'oubliez pas que la vie est trop courte pour comprendre le rugby, donc autant rigoler. On vous dit à La Boucherie.
C'est ça.
Et puis à plus. Salut.
Salut.